Est-ce que De Niro, à ce moment-là, ne serait pas, quand il est vieux, oui, quand il est vieux, en train de regretter tout son parcours de mafieux ?
Je sais pas s'il regrette son parcours de mafieux en tant que tel, mais je pense qu'il regrette les conséquences que son parcours de mafieux a eu sur sa famille.
Ça lui retombe sur le bout du nez,
comme on dit dans la mafia. Ça va te... Hein, attention.
Ah, attention à ce que tu fais.
Et c'est là qu'on aperçoit Malicia qui débarque. Quand je dis Malicia, c'est parce que c'est la même actrice que dans X-Men.
Ouais. Oui, et dans True Blood aussi.
Et d'ailleurs, personne ne peut la toucher dans la BA.
Ensuite, on a un plan sur des...
En fait, c'est pour ça qu'à un moment, on n'a pas compris Joe Pesci qui était devenu tout fripé, ridé. C'était dans la même timeline, mais c'était après que Anna Paquin l'avait touché.
Exactement,
en fait.
Exactement.
Aucun respect pour Joe Pesci.
C'est X-Men 4, en fait. In a world. No, in a world, Jack. What do you mean, no, in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, on bouge les meubles, on fait de la place pour accueillir un cinéaste américain des plus importants, des plus influents de sa génération, un des piliers fondateurs de ce qu'a été le nouvel Hollywood. Palmé, oscarisé, collectionneur de superlatifs, j'ai nommé bien entendu Martin the Great Scorsese. Et oui, Martin opère un retour aux sources qu'on annonce déjà fracassant avec un nouveau film de gangster au casting 5 étoiles, The Irishman. C'est sa bande-annonce que nous allons aujourd'hui coincer dans un cul-de-sac et passer à tabac afin qu'elle nous révèle tous ses secrets. Je dis nous, car je ne serai pas seul pour effectuer ce sale boulot. Non, non, je me suis entouré pour ce job des pires gangsters du podcast game, des vermines sans foi ni loi qui passent leur vie à écumer les bars et à traîner dans des combines sombres. Présentation avec un tour d'étape de la famille. Ambiance. Autour de la table, Clément est là.
Je m'appelle Sergio Tacchini. Je fais dans le trafic de survêtements. De XS au XXL, mes produits allient performance, confort et raffinement à l'italienne.
Sinon, j'ai aussi des Air Max tombés du camion.
Salut Sergio, prends place dans la famille.
Merci.
Clément, c'est aussi là autour de la table de la famille.
Je suis Giovanna Cazzo. La pieuvre du milieu, si vous voulez tâter du tentacule.
On l'appelle aussi dans le milieu Katsuni. Kevin, un grand mafioso, est aussi là autour de la table.
Buongiorno, je suis Tony Linguini. Ah. La calzone dans le four, si tu vois ce que je veux dire.
La bouffe toujours.
Oui, je suis pitaïolo. Mais pour de vrai.
Je crois que c'est l'ananas sur la pizza son crime le plus dur.
C'était pas moi, c'était les Américains.
Marion est là.
Oui, moi c'est Roberta de Rideau. Je vous propose une ristourne sur votre pressing pour toute trace de sang trop abondante pour être enlevée.
Aucun effort d'italien. Quoi.
Roberta
aucun.
De Rideau, mais tu n'es pas italienne.
Mais si, je suis la sœur de Robert de Niro.
Ah,
on a inversé les lettres.
D'accord. Et moi je suis Romano Di Bufala. Gangster de père en fils. Aïe, 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 bienvenue aujourd'hui dans la famille.
Merci.
On va passer maintenant au sommaire de l'émission et je vais abandonner cet accent.
Ça devient limite mexicain.
Ramborado.
Un poquito.
Vamos a la playa.
On passe donc au sommaire de l'émission et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, place à du beau, place à du grand, place à du gros sourcil avec la BA de The Irishman, le dernier film de Martin Scorsese, réalisateur phare des United States of USA.
Tu m'as appris un truc, Romain.
Quoi donc ?
Tu m'as appris que Martin Scorsese était palmé. Je ne savais pas.
Eh ben oui,
il nage très bien.
Pour Taxi Driver.
Taxi Driver, le préquel de Joker.
Ouais, t'as pas compris.
Il nage très bien.
La blague m'a évité. Bon, en plus de déclarer notre amour au cinéma de Martin, on vous dira tout sur ce film qui pointera le bout de son nez dès le 27 novembre, directement chez vous par le biais de Netflix. Netflix ? Mais et les salles de cinéma ? Ah, bonne question, cher auditeur. On en profitera bien sûr pour nous pencher sur ce nouveau phénomène qui déclenche depuis quelques années débats et polémiques au sein de l'industrie cinématographique. Puis, en deuxième partie d'émission, on y suit le sang et la poudre pour glisser dans un autre monde. comment vous êtes lançable facilement, c'est incroyable. Un autre monde, celui de la Reine des Neiges 2, que nous avons vu depuis notre dernier épisode. Alors, qu'en est-il du dernier film d'animation Disney ? La magie a-t-elle opéré libérant et délivrant notre âme d'enfant ? Ou bien, au contraire, n'était-ce là qu'une belle douille de glace qui a fini par refroidir notre petit cœur tout mou ? Vous saurez tout dans notre match retour et, spoiler alert, on vous servira un cornet à deux boules. L'un au goût...
mitigé.
L'une au goût mitigé et l'autre au goût enjaillé. Team mitigé, team enjaillé, le retour du retour, back is back, ça va débattre. Bon... Voilà pour le programme du jour. Pour le moment, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour du côté de Martin et son Irishman en découvrant sa BA ?
Allez.
Si.
Si.
C'est parti.
Place au gangster de la semaine.
It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you say what happened.
Frank, I want you to meet my cousin, Russell Buffalino.
Better watch. There's a lot of tough guys around here. Did he tell you? You're not afraid of tough guys, are you?
Yeah.
I didn't think so.
I was one of a thousand working stiffs until I wasn't no more.
You got a good friend here. You don't know how good a friend you got.
Russell, he took a shine to me right away. After a while, he started giving me little things to do. I know you read a lot of things about me. I just want to say I'm sorry. I know I wasn't a good dad. I know that. I know that. I was just trying to protect all of you.
From what?
You didn't see what I see, what I've been through.
A friend of ours is having a little trouble. A friend at the top.
Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa.
Glad to meet you.
Big business and the government is on the attack!
You want to be a part of this fight? A part of this history?
Whatever you need me to do, I'm available.
Only three people in the world have one of these. And only one of them is Irish. You know how strong I made you?
Eh ben dis donc, c'est une grosse BA avec des gros acteurs et des gros effets spéciaux.
Oui, ils ont pris du poids depuis quelques années.
Ils ne savent pas faire l'accent
italien. On a dit qu'on arrêtait l'accent.
On arrête l'accent. Grosse BA. Ben avant de découvrir cette grosse BA, avant de découvrir ce qu'annonce le prochain Martin Scorsese, on va faire appel à notre gangster à nous, le computer de nos cœurs, j'ai nommé El Calculator, qui a compté les plans de cette BA.
C'est moi, c'est moi. Bonjour, les mafiosi.
Bonjour, le calculateur.
Dans The Irishman, il y a 112 plans, 2 minutes 36, soit 0,7 plans par seconde. Oh, à peine un peu plus que la moyenne, Clémence.
Pourquoi Clémence?
C'est marrant parce que...
Je demande des comptes, hein. Je tiens à Excel.
J'aurais dit plus comme ça à vue d'œil parce que c'est une grosse BA avec
oui,
pas mal de...
Oui, mais elle est longue.
Ah oui,
ce qui compense.
Ah oui, ok, d'accord.
C'est une moyenne.
Oui. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette BA?
J'ai galéré à compter, car certains plans s'enchaînent vite. Merci de me proposer des BA plus calmes à l'avenir, où je vous règle votre compte.
Okay.
Oh, la violence, éteins-le.
Vas-y, règle le compte à personne. Vas-y, tu sais quoi, on va appuyer sur ton bouton, tu vas faire quoi? T'as même
shut
pas de bras.
Shut it down.
Non.
Voilà. Le gars, il a pris la confiance, quoi. Il s'est trop pris pour un mafioso. El Calculator, reste tranquille, hein. Il y a l'humain. Et à la machine. On passe à la BA de la semaine. Je lui ai mis un petit coup de sang là. On passe à la BA de la semaine. Donc ouais, comme je disais, un grosse BA avec beaucoup d'effets spéciaux et puis surtout une tripotée d'acteurs 5 étoiles. Avant de lancer, je voudrais qu'on fasse un petit point sur le budget du film parce qu'on est quand même sur un gros niveau, étant donné que c'est le budget le plus élevé de Netflix. Toute série et tout film confondu. Est-ce que vous savez à combien on s'élève à peu près en budget ?
$159 millions. Ça a dépassé. Au départ, c'était 120.
C'est ça.
Il y a eu des problèmes.
On annonçait un film autour des centaines, une centaine de millions de dollars. Et ensuite, ça s'est envolé. Quoi. Et c'est pour ça que Netflix est revenu sur le coup. C'était Paramount à la base qui devait produire le truc. Et c'est Netflix qui a...
Et c'est Netflix qui a fait que le budget a augmenté ou c'est qu'il avait augmenté avant ?
Ça avait augmenté. Du coup, ils ont dit, nous, ça nous intéresse.
Parce qu'ils ont dû refaire le design de Niro comme
à mon avis,
Sonic
oui.
ou...
Je pense. Okay. Non, mais sans
dire, Sonic.
Je vois que ça. Il n'y a qu'une rallonge d'effets spéciaux pour qu'il y ait genre 30 millions de dollars en plus et tout. Ça veut dire qu'il y a eu des reshoots.
En tout cas, il avait carte blanche Scorsese pour ce film-là. Donc, bonne chose d'avoir quitté la Paramount parce que Netflix lui a donné plein pouvoir. Plus ou moins. Ouais. En tout cas, le film, c'est 117 lieux de tournage, 309 scènes ou séquences distinctes.
C'est énorme.
Voilà, avec un casting 5 étoiles et puis 3h30 de film.
Bah, excusez-moi, c'est de la gnognotte à côté du Seigneur des Anneaux. Hein.
Ouh
hein, et Bératès l'a pété, Martine.
Hein. Ça, Rico, là, mais
les pieds dans
violent.
Le tapis, quoi. Les pieds dans le plat.
Cela ne se compare pas, à mon avis. Alors, la BA de la semaine, elle s'ouvre sur une petite note du piano qui est.
Fa bémol, ouais.
La Fa bémol.
Très beau.
Classique.
Très beau Fa bémol.
Ouais, et qui ouvre, l'image s'ouvre sur un enterrement. Donc,
on dirait un film de Zack Snyder. Tu sais, tous les films de Zack Snyder, ils commencent par un enterrement.
Oui, c'est vrai.
Et ouais, tiens,
peut-être une inspiration.
Et quelqu'un dit It's over, they are gone. Ouais, je vous le fais en anglais. Mais en gros, ça veut dire c'est terminé, hein, ils sont tous partis.
Ils sont partis.
Et on découvre De Niro, hein, notre vieux De Niro, là pour le coup, qui regarde une femme parmi les personnes présentes. Qui est cette femme ?
Je pense que c'est sa fille.
Qui est mort ?
Ah, moi je sais.
Moi, je pense
ils
que
sont
c'est
tous morts. Ils sont tous morts, c'est dit au début. Ouais.
Mais lui est vivant.
Qui
il
est
survit.
Mort tous.
Et en tout cas, ça a l'air d'être une grosse famille qui a perdu quelqu'un de cher. Mais dans la famille, se tiennent deux agents. FBI, police, je ne sais pas, j'ai pas su reconnaître la plaque. Mais en tout cas, deux agents qui prennent à partie De Niro et qui essayent d'en savoir un peu plus. Franck, le moment est venu. Raconte-nous ce qui s'est passé.
Ah, il n'y a pas de Franck. Clément, Clémence, Kevin et Marion.
Non, c'est ce que disent les
on appelle agents. On apprend donc que De Niro s'appelle Franck.
S'appelle Franck.
Tout à fait.
Franck voilà. Sheeran.
Franck Sheeran, ce qui n'a aucun lien de parenté avec Ed.
Que l'on croit.
Nothing. Donc, Franck, qui est là, qui est assis, est pris à partie par ces gens-là. Donc, apparemment, je pense que le film, comme la bande-annonce, part en flashback.
Oui, ça ne m'étonnerait pas que ça commence par cette scène. Ouais.
C'est là où on va tout de suite après le premier panneau. Qui indique qu'on est face au plus beau Scorsese depuis des années, selon SoFilm.
En même temps, ça fait des années qu'il n'a pas fait de film.
Ça fait.
Ah, pas tant que ça, pas tant que ça.
Bah, 3 ans.
Bah, ça fait plusieurs années.
Oui, c'est vrai. Plus de 2, c'est plusieurs.
Ouais, mais ça se tient, sachant qu'il était en grosse préparation de ce film-là. Et que...
C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle.
Ça fait des dizaines d'années qu'il essaye de porter le truc. Parce que, on le sait que le film parle d'un sujet. Qui a marqué les États-Unis. Bon, nous, on en est loin. Hein. En France, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe. Mais en tout cas, les personnages qu'on voit dans le film sont des personnages qui existent, qui ont existé du moins. Donc, après ce panneau, SoFilm, le plus beau Scorsese depuis des années, transition sur un nouveau décor. Donc, retour dans le temps. On le voit notamment grâce aux bagnoles qu'il y a garées dans la rue. Hein. Ce n'est pas des Peugeot 806. non, ce sont de bonnes vieilles bagnoles. On est face là à la façade du restaurant.
Villa di Roma.
Alors quelles zones sont délicieuses.
Ouais, très bonnes.
Et qui rencontre De Niro, qui est jeune en plus à ce moment-là. On va revenir sur les VFX après le coup, mais qui rencontre à ce moment-là
Joe Pesci.
Et ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu le Joe Pesci. Ouais.
Ça faisait depuis longtemps. 2006 et depuis le film dont je viens d'oublier le titre.
Maman, j'ai raté l'avion.
L'arme fatale 4.
Donc Joe Pesci qui n'avait plus tourné depuis Raison d'État en 2006.
Ah oui,
et
exact.
Et je crois était réalisé par De Niro.
Tout
si
à fait.
Pas de bêtises.
Tout à fait.
Et
ouais.
Donc ce n'est pas le monsieur brun avec des lunettes et un grand nez, mais c'est
celui qui parle avec des petits voix comme ça.
Et qui apparemment aurait refusé plusieurs fois le rôle avant de céder sous l'insistance.
Parlant de 50 fois.
Ouais.
C'est quand même dingue de dire non à Scorsese alors qu'il a tourné dans plein de ses films.
Mais je crois qu'en fait, il avait arrêté de jouer tout simplement.
Oui, ouais, il était à la retraite. Ouais, ouais.
Oui, je pense que de toute façon, jouer. Ça se voit quand on voit qu'il, enfin, quand on voit sans les effets spéciaux,
et
il a quand même
peut-être reconverti. Vous vous êtes renseigné sur Joe ou...
Oui, alors il a fait du jardinage chez lui, et du coup, et ça rentrait en plein en conflit avec son cours de poterie aussi.
Je croyais que t'étais sérieuse.
Je m'attendais à une vraie anecdote.
Non,
j'arrête
pas du tout.
Moi, mon truc, c'est les plantes, ok.
C'est la formation poterie de.
Je suis devenu paysagiste.
Je cultive des plantes, ensuite je construis les pots pour les mettre dedans. Voilà, c'est ma nouvelle vie. Me voilà. Parlez pas d'un film. Mais Martine, je te dis d'arrêter.
Joe Pottery.
Eh ben Joe Pottery, il joue Russell Bufalino. Voilà, ça vous dit rien, mais il joue Russell Bufalino dans le film. Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de voir De Niro et Pesci. L'autre, je sais pas qui c'est, mais je pense que c'est son vrai âge, qui ont vachement rajeuni.
Oui.
Est-ce qu'on ferait pas une petite pause là sur cet effet là qu'on voit en plus de plus en plus au cinéma?
Oui, le rajeunissement des acteurs qui sont vieux.
Donc, ce qu'on a pu voir notamment dernièrement dans les.
Jamie Man, ça a surtout commencé avec Benjamin Button en fait, non?
Oui,
c'est un des premiers à le faire avec Brad Pitt et Kate Blanchett.
Je crois que la technologie a pas mal évolué depuis. En tout cas, là, pour le film, je sais que c'est Industrial Light and Magic. Donc, une très, très grosse boîte d'effets spéciaux qui a travaillé sur des centaines de films, qui s'occupe du rajeunissement de ces personnes-là. Parce que De Niro, il a 76 ans. Joe Pesci doit être pas loin, à mon avis, aussi, un truc comme ça.
Il n'est pas plus vieux, Joe Pesci.
Il a l'air plus vieux. Ouais.
Et puis Pacino aussi, qu'on va voir plus tard dans la BA, lui aussi sera rajeuni.
Alors Pacino, je trouve que, putain, lui, pour le coup, il a plutôt bien vieilli, parce que je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça avec la version rajeunie.
Oui, on est d'accord.
Il a toujours eu l'air vieux aussi.
Et qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce rajeunissement? Est-ce que vous, ça vous choque ou est-ce que vous êtes convaincu par cet effet-là?
Moi personnellement, je trouve ça assez bluffant. Alors, je pense que je suis la seule autour de la table, mais j'ai peut-être pas suffisamment observé la BA, mais honnêtement, je suis assez impressionnée. J'y ai cru tout de suite et il y a rien qui me choque. En tout cas, là, à première vue, rien ne me choque. Après, peut-être que pendant le film, ça changera, mais.
Bah, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où je trouve que c'est effectivement impressionnant parce que ça a l'air crédible. C'est-à-dire que ça a l'air d'être de vrais êtres humains, ce qui est un peu moins le cas, par exemple, dans Rogue One ou Marvel. J'ai oublié le nom de l'acteur dans Star Wars, ça m'énerve. Néanmoins, il y a quand même une sorte d'effet de vallée dérangeante, je trouve, où tu as quand même la sensation que ce n'est pas vrai et ça crée, je sais pas, moi, ça me... Il y a une espèce de...
Ouais, d'étrangeté, ouais.
D'étrangeté. Enfin, je suis un peu dérangé quand même. Ouais.
Ça dépend des plans, je trouve.
Moi, ce qui me perturbe, c'est pas que ça fait une vallée dérangeante, c'est que j'ai l'impression de pas les reconnaître tels qu'ils étaient jeunes, parce qu'en plus, on les a beaucoup vus dans plein de films depuis jeunes. Ça, je reconnais pas mon Robert.
Non, mais oui. Non, mais
je comprends pas.
D'accord.
Bah, ils sont
la corpulence et tout.
Ils sont partis du visage d'aujourd'hui, donc c'est sûr qu'ils retrouveront jamais comment dire, leur jeunesse d'antan à l'image. Mais moi, ce qui me fait rire en même temps, c'est que s'ils ont la gueule jeune mais le corps vieux en fait, ça va être marrant s'il y a des scènes d'action quoi. Il va se passer quoi? On verra des mecs à courir.
Non, en tout cas c'est une belle pub pour FaceTime.
Non, FaceTime c'est quand tu t'appelles en visio
sur
l'iPhone.
C'est quand c'est... J'ai oublié.
FaceApp je crois.
FaceApp.
Oui c'est ça, oui.
FaceCam.
Le truc espionné par la Russie.
Excusez-moi chers auditeurs, je suis mal renseigné.
Mais c'est vrai que c'était un peu à la mode. En tout cas c'était l'intention même de Scorsese hein, de partir sur cette technologie là. Il l'avait testé notamment avec ses acteurs De Niro et Joe Pesci qui avaient reproduit une scène des Affranchis.
Mais cela dit, ça me choque pas parce qu'au final, même si on les reconnaît pas trop, comme un acteur, il va un peu se travestir pour un rôle, il a jamais vraiment la même tête un peu partout.
C'est pas la même personne en soi, c'est pas le même personnage.
Donc, honnêtement, j'adhère quoi.
On revient à la BA, hein, donc on verra ce que ça donne les FX, mais on revient à la BA. Et donc, Bufalino, si vous vous souvenez qui c'est
ça donne faim. C'est le petit frère de Bufala, c'est ça c'est
de, et de Borsellino.
C'est, c'est la femme, c'est Bufalino, c'est mon petit cousin. Donc, Bufalino, donc, le gars aux lunettes qu'on ne connaît pas, c'est le cousin de Bufalino. Et il présente Frank, donc Frank Sheeran, De Niro, à Joe Pesci. Donc Joe Pesci, il a l'air de peser dans le game. Ça a l'air d'être un baron, un mec qui traîne dans des bails sombres, quoi. Et la BA, là, à partir du moment-là, s'enchaîne à partir de cette rencontre-là et on nous annonce par les images, on va dire épileptiques, qui passent là tout de suite après, qu'il va y avoir du mafioso.
Ça va charcler.
Mais du coup, c'est casting full Scorsese avec Kettle en plus.
C'est ça. On retrouve la famille Scorsese. On retrouve De Niro. On retrouve Pesci. On retrouve Harvey Kettle, avec qui il a beaucoup travaillé. Hein. Je crois que De Niro, c'est la 9e fois qu'ils travaillent ensemble.
Et ça, je ne savais pas. Je savais pas que Harvey Kettle était si présent.
Harvey
Kettle,
si, c'était le premier avec qui il a travaillé, notamment dans Mean Street.
Dans Mean Street,
Mais en tout cas, ce qui est surprenant, c'est que c'est la première fois qu'il travaille avec Al Pacino.
Ouais. C'est étonnant.
Et ça,
hein.
Je ne savais pas non plus. Je pensais qu'ils allaient jamais bosser ensemble.
Ouais, c'est tellement évident qu'en fait, c'était jamais arrivé.
Bah ouais.
Donc, on va essayer de se faire une histoire un peu avec déjà tout ce qu'on a vu. Là. On a Joe Pesci, Harvey Keitel, De Niro qui se retrouvent. Qui sont-ils?
C'est l'histoire d'une soirée au restaurant.
Qui a mal tourné.
Voilà. Ils voulaient juste une pizza.
Ils ont pris la réservation, ils l'ont eu, ils sont arrivés à l'heure, tout va bien. Présentation, voilà.
Et peut-être que la suite de la BA va vous aider peut-être à faire une histoire parce qu'on va encore plus loin dans le flashback après le panneau numéro 2 qui indique que c'est un chef-d'œuvre selon Lobbs. Ah. Voilà. Donc après ce petit panneau de chef-d'œuvre Lobbs, on est sur un autre flashback où on voit De Niro au volant d'un camion. Il a l'air d'être livreur.
De
non,
viande.
Il est le routier, non?
Mais il a de la viandasse dans l'arrière du camion.
Il a de la barbac, ouais, dans le...
Bah tu peux être routier avec de la viandasse dans le camion.
Bah pour moi routier c'est des 15 tonnes quoi, c'est pas des petits camions.
Ah ouais, je comprends.
Donc c'était un petit employé mais qui a fini à la table des grands parrains qui sont ces gens
au moins des caïds au moins au minimum.
Et puis Harvey Keitel semble être décisionnaire dans l'arrivée de De Niro. Il faut l'aval de Keitel, donc Keitel doit être certainement au-dessus en mode enfin
oui, parce qu'il a des lunettes.
C'est un code de la mafia qui est très connu.
C'est le cerveau.
Par contre, quelqu'un a remarqué Keitel jeune? Parce que j'ai pas cru voir son visage rajeuni.
Non,
moi.
Parce qu'il était déjà
non,
vieux.
Non, parce qu'il est vieux dans le flashback où ils sont middle age.
Donc lui, sur la ligne temporelle, il est vieux, puis il est mort.
Voilà, ouais. C'est ça.
Malheureusement. Mais ce sont des personnages qui ont existé. Je vous invite à vous renseigner sur l'histoire si vous voulez. Et là, on a un plan sur un coffre de bagnole. Parce que il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Hein. S'il a été engagé, le De Niro, c'est pas pour rien. Et ça me fait un peu penser, moi, aux Affranchis. Le rôle de Ray Liotta. Je sais pas si vous vous souvenez.
Oui.
Parce que qu'est-ce qu'on lui demande du coup? Parce qu'on voit dans le coffre qu'il y a du carburant. Enfin, je crois que c'est de l'essence, de la dynamite. Il y a des détonateurs. Ouais.
Il doit faire sauter des voitures sur un parking.
C'est ce qu'il va
d'une
faire.
D'une compagnie de taxis, j'ai l'impression.
Oui, des taxis, ouais.
Il va faire sauter une vingtaine de taxis dans un parking. Et ça me fait penser aux Affranchis parce que c'est ce que fait Ray Liotta quand il est tout jeune et qu'il est engagé par les gangsters dans le film de Scorsese. Donc on commence comme ça, apparemment, dans les films de Scorsese, avant de buter des gens.
Bref, génocide de taxis.
On pète de la bagnole.
On sent qu'il y a quand même de la rancœur envers les taxis de chez Scorsese, hein, c'est un thème.
Et là, le vol, il monte très vite parce que tout de suite après, un petit plan dans la BA où on voit De Niro qui se balade dans la rue.
Il bute quelqu'un. Boum!
Et puis il explose la tête d'un mec.
Ah non, mais la violence de la scène, c'est génial. Moi, je trouve où il arrive super vite, il met le gun quasiment à bout portant, paf, c'est génial.
Alors, est-ce qu'à votre avis, le film va être violent?
Oui.
Non, mais.
Oui.
Question
oui.
N'est
oui.
Pas idiote.
Je pense que
à
violent.
Votre avis, quel dosage de violence graphique dans ce
50%.
Film de mafia?
Ça va être du Scorsese, ça va charcler.
Ça reste Scorsese, donc je pense que ce sera élégamment fait. C'est pas du gore pour du gore, mais oui, ça risque d'être sanglant.
Je sais pas, parce qu'il y a un des plans très rapides où il y a un gars qui se prend une giclée de sang dans la gueule.
Et le Monde a une manière très belle de décrire justement cette violence. Ils disent que c'est une apothéose de poudre, de chair et de sang.
Waouh.
Et c'est le panneau numéro 3 dans
J'ai
cette
J'ai même pas fait exprès, c'était une transition trop.
Ouais. Quel talent!
C'est le panneau numéro 3. La BA est pas mal agrémentée de panneaux avec des critiques. On n'a pas eu souvent ça depuis le début. Je crois
pas autant
pas tant
en tout
que
cas.
Ça.
Ouais, ouais.
Là, pour le coup, vraiment, ça envoie.
Et du coup, comment ils font les journalistes pour voir un film en avance quand il sort pas en salle et qu'il est sur Netflix?
Ils ont dû faire une projo presse.
Ils t'envoient un screener.
Eux, ils le voient en salle du coup.
Ils t'envoient un DVD.
Je suis pas sûr.
Bah, Netflix a peut-être un studio de projection.
Non, mais tu peux recevoir chez toi. Hein,
oui, non, mais j'arrive pas à m'imaginer du coup concrètement
sur...
dans quel contexte.
Ils t'envoient un lien ou un DVD. Ouais,
tu envoies des liens en fait, comme sur OCS ou Netflix, ce genre de choses-là. Ils t'envoient un lien en gros privé.
C'est ce qui est fait pour les séries en général.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ça s'appelle un screener.
On a un ami qui travaille dans ce milieu et reçoit des liens.
Et oui.
N'est-ce pas?
Mais peut-être que. Enfin, je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait qu'il y ait autant de panneaux qui fassent l'apologie critique entre guillemets du film, c'est peut-être justement pour servir le fait qu'il soit pas en salle et que du coup ça nécessite de faire un peu plus la lumière sur le film.
Ouais,
quoi.
Et puis c'est pour dire que c'est un film quali quoi, c'est qualitatif.
Après, c'est
de toute façon
pour,
Scorsese
fait...
et le casting c'est quali.
Après, c'est aussi fait pour emphatiser le fait que c'est Scorsese qui l'a fait à mon avis, c'est regardez c'est Scorsese. Mais comme tu dis, c'est sur Netflix, mais ça reste Scorsese, donc c'est du gros cinéma. Quoi.
Ouais.
Ouais, et puis c'est du gros budget pour Netflix, donc il faut aussi qu'ils mettent toutes les chances de leur côté dans la bande-annonce pour rentabiliser. Enfin,
et
sais
puis
pas
peut-être aussi parce que son dernier, c'était Silence et que ça avait rien à voir et que là, ils tiennent à mettre l'accent sur le retour aux sources
de
Scorsese.
Le retour aux sources des films de gangsters. Et puis on découvre dans la bande-annonce, après ce panneau-là, que un changement de décor. Encore, on va changer beaucoup de décors parce que de toute façon, le film a été tourné dans une centaine de décors. Donc, la bande-annonce en présente aussi beaucoup. Mais vite,
tu compteras les décors, le calculateur, la prochaine fois.
Non.
Qui l'a allumé?
Petite vie. Il est toujours allumé, il se rallume toujours.
Il n'est jamais vraiment éteint.
En fait,
je crois
qu'il se met en veille.
Il est en veille,
il n'est jamais éteint, vraiment. Il est toujours là, en train de planer. Changement de décor et puis vie de famille, parce qu'on a De Niro qui lit son journal. Hein, il a l'air déjà d'avoir fait des choses sales.
Il lit la Provence, d'ailleurs, ça m'a surpris.
Et une petite fille en face de lui prend son petit-déj. Est-ce que c'est sa fille, selon vous?
Je pense, il prend pas
Oui.
Si c'est sa fille, elle ressemble pas à Anna Paquin.
Ouais, mais c'est sa fille, c'est pas Polanski le gars.
Ils ont pas mis le Paquin sur le casting.
Il en a pas qu'une, c'est plutôt ça que tu veux
dire. Oh, il en a pas qu'une.
Oh là là. Oui, il en a pas qu'une, effectivement. Dans l'abondance, on en voit au moins deux.
Je pense qu'il y a plusieurs
enfants.
Ah bon ? On voit des domestiques
oui.
aussi.
Oui, c'est pas la même à qui il parle en premier en témoignant. Et...
Oui, mais du coup, celle à qui il parle, c'est pas. C'est sa fille ?
Ça a l'air. Il est dit, je sais que j'ai pas été un bon père, alors.
Oui, mais ça pourrait être sa femme.
Ah, mais elle est trop,
jeune. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est compliqué,
En tout cas, moi je vois des domestiques derrière, donc il est pas dans la misère, le De Niro.
Sa fille, clairement, elle le juge.
Elle le juge.
Le regard de l'enfant, le regard de
la vérité. Ah, t'as vu des domestiques? Tu vois, j'ai pas fait gaffe, j'ai cru qu'il était dans un dîner avec des serveurs derrière, moi. Mais j'ai peut-être mal regardé, j'ai pas fait gaffe.
Chez lui.
Non, c'est à la maison, c'est une cuisine, clairement.
Il y a un bol de cornflakes,
j'ai pas vu, quoi.
Mais c'est vrai que, comme tu disais, Marion, il y a sa fille qui, en gros, je sais pas si elle appelle un peu son père en mode « tu ne me regardes plus, maintenant t'as un nouveau boulot, je termine même pas mes céréales, tu t'en fous. » Enfin, en tout cas, c'est ce que la voix off dit, je pense que c'est De Niro qui parle. Hein. « Je sais qu'on raconte beaucoup de choses à mon sujet, sache que je suis désolé. »
C'est beau.
Et pas innocent.
Oui.
Ce qui aurait été la bonne réponse.
J'essayais juste de vous protéger. Je n'ai pas été un bon père. J'en suis conscient. Ça, c'est dans le futur. Enfin, je veux dire, c'est dans le futur par rapport. On est en train de se perdre.
On s'est perdu.
Blade Runner 2049.
Il
y a plusieurs timelines.
Non, parce que la petite fille, je sais pas s'il parle avec une meuf là, mais c'est la même qu'on voit, je crois, à l'enterrement. Mais c'est pas sa fille future.
Hein, c'est sa future petite fille dans le présent. Mais
bon, ok, c'est bon, on peut se faire un film en mode retour vers
mais
le
c'est
futur.
Sa famille, est-ce qu'il la regarde avec insistance au moment de l'enterrement? Mais on la voit plus après, il est vrai.
Mais ça voudrait dire qu'il y a la petite fille qui est une actrice jeune. Ensuite, on a Anna Paquin qui est Malicia dans X-Men et tout, qui a l'air aussi d'être sa fille parce que de toute façon c'est marqué sur le.
Pour moi, c'est la petite brune.
Casting. Et ça veut dire qu'après, encore plus tard, ils changent d'actrice pour qu'elle soit plus vieille.
Moi, je pense que sa fille est allée dans le tipi temporel de Parasite.
Mais voilà.
Pour faire de l'autoréférence.
On rappelle le tipi temporel, si vous voulez comprendre ce que dit Clémence, il faut se rendre à notre épisode de Parasite.
Le combien?
C'était le 6.
Ouais, j'aurais dit. C'était l'épisode 6. Oui, je crois.
La question piège.
Parasite.
On a un plan sur des gangsters qui sont en caisse. Et puis toi qui parlais de violence, Clémence, là si on y est, il y a un mec qui se fait étrangler violemment côté passager. Oui. Ils sont pas en train de lui remettre le col ou quoi que ce soit. Pas de bienveillance à ce moment-là. C'est la mort au bout du rouleau.
Au bout du tunnel.
Au bout du fil.
Au bout de la corde.
On a l'introduction à ce moment-là d'un mon ami d'un personnage qui va faire en sorte que le film va prendre un autre sens. Qui est-il?
C'est Al Pacino et il joue Jimmy Hoffa.
Jimmy Hoffa.
Bravo.
Alors, je sais pas vous, mais moi, Jimmy Hoffa, c'est un nom qui me parle. C'est un nom que j'ai déjà entendu. Donc après, je me suis renseigné. Je vais essayer de pas en dire plus parce que ça va spoiler le film. Mais juste pour faire une petite brève, on va continuer à se faire des films. Mais il faut savoir que le film est inspiré d'un livre. Un livre qui s'appelle « I heard you paint houses ». Il paraît que vous repeignez des maisons.
Ouais. Très bon titre.
C'est un livre portugais.
Un livre de mafia.
Et si, c'est un rapport, Clémence, parce que c'est une manière de dire. Il paraît que vous repeignez les maisons, c'est pour dire il paraît que vous explosez des têtes et que
vous
ça repart des maisons.
Que
quoi,
vous êtes dans le milieu.
Et c'est pour ça que Roberta Derrido intervient. Voilà.
C'est après.
J'avais pas compris, mais je pensais qu'il lui avait dit ça parce que le mec repeignait des maisons.
Non, c'est un code. C'est un code entre eux, en fait. Et c'est justement ce que dira Jimmy Hoffa. Après, ça, c'est une légende, mais c'est ce que dira Jimmy Hoffa à Frank Sheeran avant de l'engager, en fait. Donc, c'est clair qu'il va pas l'engager pour distribuer le courrier. Hein. Il va l'engager plus pour distribuer des balles dans la tête des gens. Et surtout, l'engager pour être son
garde du corps.
Garde du corps, car Jimmy Hoffa, vous savez un peu qui c'est, vite fait, comme ça.
Alors, parce qu'on n'en a pas parlé, tout ça se passe au sein d'un syndicat de routiers, dont je viens d'oublier le nom à l'instant.
The Tipsters.
Tipsters. Et Jimmy Hoffa était à la tête du syndicat routier, et c'était un syndicat qui baignait dans des affaires de mafia. Et du coup, je pense qu'il avait des petits problèmes mafieux, Jimmy Hoffa, et il avait besoin de protection.
Voilà, bah, y a eu pas mal d'histoires de blanchiment d'argent, ouais. De corruption, tout ce qu'un mafia plus ou moins fait. Hein,
le Balkany de l'époque. Hein.
Oui.
Ah, attention à ce que tu dis.
Pardon.
Fais gaffe. Donc voilà, oui, en gros, hein, sans trop s'étendre, c'est cette histoire-là. Et à partir de ce moment-là, cette rencontre-là va changer la vie de Frank Sheeran. Et puis je pense que tout va tourner autour de ce certain Jimmy Hoffa, qui aujourd'hui n'est plus. Toutes ces personnes-là, donc Frank Sheeran, Jimmy Hoffa, Bufalino, vont être mêlées à des histoires politiques qui ont marqué d'une pierre noire l'histoire des États-Unis.
Ouais, qui sont allés très loin.
C'est allé très loin. Si je dis ça, c'est parce qu'à ce moment-là, on a le contexte social qui est montré dans la BA. Qui me fait un peu
point on
sur
voit président
social.
Kennedy.
Oui, il y a des images d'archives en fait de l'assassinat de Kennedy, de ses discours et tout ça.
Même pas vraiment son assassinat, on voit pas son assassinat.
Ah ouais, mais c'est le jour de son assassinat parce qu'ils sont dans la voiture.
Elle était en rose quand il a été tué.
Oui,
elle est pas en rose dans la
BA. On voit une image d'elle exfiltrée en rapidité.
Aussi, ouais. Après ça va très vite. Hein,
Après moi il m'a semblé que ça ressemblait aussi à l'assassinat de Robert Kennedy qui était pas longtemps après. Ouais. Au moment où il s'est fait élire,
peut-être. En fait, il faut savoir que Jimmy Hoffa était dans le collimateur des deux Kennedy.
C'était une période d'élection.
Ça veut dire que c'était un pote Jimmy Hoffa qui avait tué JFK.
Ah là, tu t'emportes, ma petite.
On ne le sait toujours pas.
On a résolu l'affaire.
Moi, je me fais pas des films sur les bandes-annonces, je me fais des films sur l'histoire américaine.
Alors, il faut voir JFK, hein, pour ceux qui n'ont pas vu.
Donc, on est, en pleine politique. Les Kennedy qui sont là, qui sont bien présents. Mais du coup, ce serait quoi le lien entre Hoffa et les Kennedy
Ouais, c'est ce que je te disais, c'est qu'il était tellement impliqué dans des affaires de corruption, de blanchiment de trucs et tout, que l'administration Kennedy avait fait une priorité du fait de le mettre derrière les barreaux, Jimmy Hoffa. Et donc après, on verra ce qui se passe dans le film. Quoi.
Puis après, même s'il est président d'un syndicat, les syndicats, c'est jamais trop les potes de l'État, quoi qu'il arrive.
Voilà, c'est ça, c'est qu'il était aussi très, très vénère contre le gouvernement.
Les gilets jaunes de l'époque.
Ouais.
Oui, donc peut-être qu'il a mis le doigt sur un truc qui pouvait gêner en tout cas l'administration Kennedy à l'époque, parce qu'on le voit faire un meeting à un moment dans la bande-annonce, donc peut-être qu'il était gênant aussi, parce que l'administration Kennedy n'était peut-être pas toute blanche non plus.
Exactement.
Et puis être président du syndicat des routiers des States, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est quand même eux qui permettent que le pays
vive. Il y en a des
vive,
routes.
Quoi.
Et petite anecdote, il y avait déjà eu un film sur Jimmy Hoffa, réalisé par Danny DeVito
en
92 et interprété par Nicholson.
Et qui est pas mal.
Par Nicholson, hein. Ok.
Et qui est pas mal du tout.
Ça s'appelait comment?
Hoffa, je crois.
C'est okay. Ça, tout simplement. On a dans la bande-annonce ensuite des petites phases d'action, hein, comme dans toute bande-annonce qui se respecte. On a une voiture mitraillée, on a le tribunal, alors à mon avis il va y avoir des procès, on a des plans de Détroit, donc il y a des choses qui se trament. Et on a Bob, je l'appelle Bob, c'est Robert, hein,
le
Bob,
de
Niro.
Mais il te permet, c'est comme c'est mon frère, c'est la famille.
qui se débarrasse d'une arme, et puis la voix off qui s'enclenche et qui dit « Tu veux en faire partie, Franck ? Faire partie de l'histoire ?» hein ? Et l'autre, Bob, là, il répond « Quoi qu'il vous faille, je suis là. » Alors, très belle utilisation.
Oui,
très joli. Très joli
subjonctif.
Subjonctif.
Belle conjugaison, voilà. On aime ça.
Du fric dans un coffre. Bref, on est sur vraiment tout ce qui est... commun à toute bonne histoire de mafioso, en plus chez Scorsese, donc un bon retour aux sources jusqu'à présent. Le panneau 4 nous indique que c'est un bouleversant requiem mafieux de Martin Scorsese.
Oh là
Scorsese.
Là, le panneau pompeux.
Selon Première, mais
Première, calmez-vous, hein.
Donc voilà, requiem mafieux de Martin Scorsese, et ben on a hâte
de voir
ça.
Pourquoi requiem, il va pas mourir, pas tout de suite.
La mafia, oui.
Oh.
Oh.
Non.
Ça, on verra. Et là, on a l'introduction, Marion, toi, tu en parlais tout à l'heure, des chevalières.
Ah
des
oui,
chevalières,
oui, très important.
Alors, il nous montre qu'il y a trois personnes qui ont une chevalière et dont un Irlandais. L'Irlandais, je présume que c'est
Richman. Chiran. Ça me fait toujours bizarre que De Niro soit utilisé en mafieux irlandais souvent, quoi. Alors qu'il s'appelle De Niro, le mec, quand même. Ouais. Les affranchis, il fait pas un italien aussi, il fait un Irlandais.
Donc, le gars est irlandais?
Bah, The Irishman, il s'appelle
et
pas comme ça parce qu'il est italien.
Pourquoi on a fait une intro en mode italien, du coup?
Parce que c'est la mafia.
C'est Scorsese. Scorsese.
C'est la famille.
C'est le cliché.
C'est la famille. D'ailleurs, dans Les Infiltrés, c'est pas une mafia irlandaise aussi?
Si.
Si.
Absolument. À Boston.
Mais je crois que c'est une thématique hein, du cinéma de... de Scorsese, tout ce qui est immigré italien, irlandais, tous ceux qui ont Gangs of New York, c'est clairement ça. Hein,
C'est complètement ça.
Non, c'est les Irlandais contre les.
C'est ceux qui s'appellent les natifs, en fait, qui sont pas du tout les natifs d'ailleurs, qui sont les colons.
C'est les Wasps contre les Irlandais.
Mais les Irlandais qui arrivent après la crise de la pomme de terre.
Et c'est dans ces films-là qu'il basait peut-être la puissance de son art. En tout cas, c'est ce que semble dire le New York Times à propos de ce film, parce que c'est le panneau numéro 5. On ressent la puissance de l'art.
Vous avez vu le magazine français, son déviant aux États-Unis.
Ils ont attendu 2019 pour ressentir la puissance de l'art. Quoi. C'est fort quand même.
Ben voilà, et on en parlait de Kennedy, et effectivement, Kennedy se fait tirer dessus déjà dans la bande-annonce. Hein. Donc, spoiler alert, he's dead. Voilà.
Il meurt.
Mais c'est qui le président maintenant?
Ah bah c'est Trump.
Mais non. Et ça a été Nixon juste après.
Tout de suite après Kennedy, c'est Trump. Normal.
Trump.
Le panneau 6 nous annonce que De Niro est monumental selon les Rolling Stones. Donc voilà, je sais pas qui de Rolling Stones. Je sais pas qui de Rolling Stones.
C'est Keith Richards, il l'avait.
Ouais, c'est Keith
Richards. Franchement,
Richard,
c'est extraordinaire.
Ouais, Robert De Niro is monumental.
On voit des petites phases où y a De Niro qui dit personne ne menace au phare. Hein. Il est en mode garde du corps. D'ailleurs, c'est une des affiches à ce moment-là où il le protège.
Oui, c'est vrai.
Il le protège et tout. Le panneau numéro 7, Pacino, est extraordinaire hein, selon Variety.
Oui. Ouais.
Voilà.
Ouais. En fait, tous les acteurs sont bons en fait, dans le film, hein, j'ai l'impression.
Tout le monde joue bien, c'est super.
Et comment tu fais une échelle entre monumental, extraordinaire
Attends, ça arrive.
Attention aux rivalités.
Attends, parce qu'après, il y a le coup de girofle sur le gâteau après. Tu vois.
Ah, et ensuite, le panneau 8 dit Pecci, bof, bof.
T'imagines, c'est génial.
Non, le panneau 8, évidemment.
C'est incroyable ce panneau-là. Pecci, une révélation.
On le sait depuis longtemps. Ils sont ouf, les gens.
Putain, mais je sais pas. On dirait que c'est genre un premier rôle.
Mais est-ce qu'il a eu un Oscar, Joe Pecci?
Bien sûr, second rôle dans Les Affranchis. Oui,
mais pas pour premier rôle.
Ouais,
non, il a toujours été.
Mais il a rarement fait
de
premier rôle.
Je crois même
pas fait d'ailleurs.
Rarement.
Et puis là, de toute façon, il pourrait pas l'avoir. Son rôle le plus central, c'était dans Maman, j'ai raté l'avion, en fait. Oui. Mais tu sais qu'il, moi, je le trouve merveilleux dans Maman, j'ai raté l'avion.
Il est parfait.
J'adore ce personnage. Il est trop drôle.
Et c'est une révélation.
Il joue l'avion, c'est ça ? J'ai pas vu. Moi.
Selon le New York Times.
Il joue Harry.
Le New York Times affirme que Pecci est une révélation. Mais je voulais revenir sur l'histoire même, parce que là, on commence à partir un peu en mode parano, hein, de ce que j'ai compris. Il commence à y avoir des doutes concernant le OFA. Donc, le OFA, je ne sais pas ce que vous en pensez à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, vous, selon l'histoire que vous pouvez vous en faire ?
Apparemment, dans la bande-annonce, il dit qu'il a... En tout cas, de quoi les faire tomber. En tout cas, c'est ce qu'il laisse entendre. Ouais. Alors, soit des enregistrements, soit des comptes rendus, des trucs. Enfin, il a de quoi les faire les envoyer à Londres. Donc,
Mais en fait, est-ce que c'est pas parce que justement, il est en difficulté lui-même ? C'est toujours comme ça. En fait, c'est quand le gars est en difficulté qu'il est mis en prison ou quoi. Ouais. Et dans ce moment-là, et ben, il balance.
Ouais, mais il aurait pas de raison de les balancer pour rien. Moi, je crois surtout que la mafia va demander des comptes à OFA et OFA va leur dire non, je vais pas vous faire ce que vous voulez. Moi, je peux vous faire tomber si je veux, ce qui va créer des tensions et après.
Tout ça, c'est une question de thunes.
Bah, bien sûr.
Il faut savoir, quand tu connais l'histoire d'OFA, c'est qu'il a été envoyé en prison hein, pas très longtemps, je crois, juste 2 ans, et qu'il a été remis quand Nixon était à la présidence. Il a été gracié par Nixon et qu'il a dû se tenir à carreau. Donc, c'est peut-être à ce moment-là, du coup, qu'ils ont vu d'un mauvais œil De Niro et compagnie.
Ils avaient peur qu'il balance. Peut-être.
Voilà, je pense qu'ils avaient peur qu'il balance toutes les magouilles qui avaient été faites jusque-là, ou même qu'il trouve plus vraiment sa place, lui, dans ce système-là.
Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, c'était peut-être ça son moyen de se faire gracier, en tout cas de sauver sa peau. Peut-être que l'État lui a simplement demandé de balancer ses liens avec la mafia et ce qu'il savait pour que lui, justement, soit gracié et soit pas inquiété, quoi.
C'est un truc du genre, je pense.
Hey. Et le panneau 9. Hein, je vous laisse deviner ce
ça
que c'est.
Ça fait beaucoup de panneaux.
C'est le 9 octobre, comme d'habitude.
Le 9 octobre.
9 panneaux, hein, pour terminer un peu les éloges autour du film. C'est encore les Rolling Stones hein, qui s'amusent.
Ouais, mais là, c'est le batteur. Le batteur, il est très cinéphile aussi. Hein, c'est pas connu, mais...
Qui a mis 5 étoiles. Donc les 5 étoiles, elles apparaissent en fondu, vraiment pour annoncer qu'il y a 5 étoiles avant qu'on dise que c'est le film événement de l'année.
Ok.
Donc voilà, on a des derniers plans de la bande-annonce sur OFA qui sort de chez lui. Alors là, on va parler un peu de cette scène vite fait.
Oui.
Qui sort de chez lui. Et dans cette voiture, il y a 2 gars à l'avant, dont Jesse Plemons.
Oui, qui joue tout le temps des gangsters. Putain, mais c'est salut, ça lui
colle au derrière. Plemons,
celui qui est dans Breaking Bad.
Oui, c'est oui.
El Camino.
Oui.
Et qui était aussi. Attends, dans quoi d'autre ?
Il est dans la série Fargo saison 2. Aussi.
Dans Black Mirror
ouais,
saison 2.
Il fait tout le temps
des
enfoirés.
Il est dans Black Mirror, ouais.
Alors qu'il a l'air tout gentil.
Il fait des rôles d'enfoirés, ouais.
Bah, il est roux.
Et derrière se trouve De Niro.
Comme Ed Sheeran.
Donc il y a Jimmy Hoffa qui sort pas ses poubelles, mais qui se dirigeait, je crois, vers sa bagnole. Et De Niro, la voiture arrive et interpelle Jimmy Hoffa. Et il doit y avoir un dialogue qu'on n'a pas dans la bande-annonce. Mais en tout cas, il y a Jimmy Hoffa qui va dire « Je sais ce que tu ressens, Franck. Crois-moi, je le sais bien. »
Ouais, mais ça, c'est pas une voix off par-dessus Parce que pour moi, il y a cette phrase-là qui a l'air d'être en voix off. Et après, il y a plutôt un gars dans la voiture qui dit à Jimmy « On te ramène ta voiture, je sais pas quoi.
Ouais, »
Mais je trouve que cette scène est très ambiguë. Elle peut aller dans plein de sens différents.
Je l'ai pas trop
compris, j'ai l'impression que De Niro, il a l'air un peu genre au courant de ce qui va lui arriver.
Ouais.
Résigné, quoi.
Bah,
et, que Pacino le regarde avec un air un peu... un peu triste en fait.
Oui, mais justement, je trouve que c'est typiquement le genre de scène. Tu sens que t'es à un point de non-retour.
Jésus et Judas, tu sais. Voilà, ils se sont mis d'accord, ça va se passer comme ça et voilà quoi.
Ah, vous le sentez comme ça, ouais.
Ah ouais, ça m'a fait
genre
un peu ça.
Que ça se passe comme... Moi, j'ai l'impression qu'il va
se
surprendre.
Non, mais tu sais, c'est une espèce de regard de. Au fond, on est attachés l'un l'autre, mais on sait bien que ce soir, un seul de nous sera vivant.
C'est vrai qu'il y a un
vivant.
Côté résigné dans le regard de Pacino, mais ça parce que c'est un grand acteur.
Parce qu'on lui dit de monter, on lui dit, en gros, on lui dit monte dans la voiture.
Et parce que Pacino adore travailler ses regards et ses mimiques en amont. Vraiment beaucoup, et ça lui a joué des tours déjà sur plusieurs tournages. Il aime bien vraiment être. J'avais déjà lu ça, je sais plus sur quel film, où il répète devant le miroir les mimiques et les moindres mouvements de tête qu'il va faire avant de jouer. Quoi.
Il faut qu'il apprenne beaucoup de Gérard Depardieu,
qui lui est très dans l'improvisation alcoolisée.
Et donc De Niro semble dire à Hoffa à ce moment-là monte dans la voiture, quoi. Il va se passer ce qui va se passer, mais monte.
Ah, toi, tu comprends
Moi, ce que je comprends, c'est est-ce que ce serait pas là le one last ride pour Hoffa?
Parce que moi, j'ai l'impression qu'en fait, il va se tirer sans Al Pacino.
Et
en fait.
Rentre assez pour
que De Niro s'en va avec la voiture et que Al Pacino revient pas, ne compte pas monter à aucun moment dans la voiture.
Ah non, l'idée, c'est de le faire monter, justement. C'est parce que l'autre lui dit je te ramène plus tard ta voiture. Pourquoi il lui dirait ça?
Parce qu'il embarque De Niro, justement. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Après, je suis pas familière avec l'histoire, donc je dis peut-être une énorme bêtise, mais j'ai pas du tout l'impression à aucun moment que Al Pacino va monter dans cette voiture. J'ai plutôt l'impression que les deux mecs qui sont au volant bossent pour lui.
Et si vous voulez, on prend les paris, c'est comme pour
Port
de Champéret.
Pour moi, c'est De Niro qui le regarde en mode viens à côté de moi, quoi.
Bon, honnêtement, je comprends pas la
et
scène.
Et peut-être ils lui ont piqué sa voiture. Il est en mode mais qu'est-ce que vous faites?
Dude, where's my car?
Mais on te la ramène plus tard, t'inquiète. Mais t'es pas invité, donc on part sans toi.
Et je comprends pas pourquoi ils ont terminé sur cette scène.
Ça doit être un moment charnière dans le film, certainement. Qui ouvre, je trouve, des possibilités très différentes.
J'ai retrouvé beaucoup de tension, moi, rien que dans le regard de Al Pacino à De Niro. Parce que c'est De Niro qui est derrière dans la voiture, faut pas oublier ça. C'est De Niro qui est là derrière, en boss, en gros, et qui vient chercher au phare. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça.
Oui, moi, je trouve qu'il a une tête de prisonnier, moi, derrière, tu vois. Pas une tête de boss.
Non, tu sais ce qu'il fait la gueule, mais c'est De Niro, ça.
Ouais. Il fait toujours la gueule. Après cette scène, le titre en fondu apparaît sur une note de piano. The Irishman. Écrit par Steven Zalian, je ne sais pas comment on prononce, mais Steven Zalian, qui est un scénariste de renom à Hollywood. Est-ce que vous connaissez un peu?
Du tout.
Pas du tout.
Eh bien, comme ça, pêle-mêle, c'est le gars qui a participé au scénario de Mission Impossible, de Hannibal, Gangs of New York.
La liste de Schindler.
Et notamment, oui, voilà, je vais garder pour la fin, la liste de Schindler, qui est son peut-être plus gros.
C'était facile, l'histoire était déjà faite.
Donc c'est vraiment pas n'importe quel scénariste, quoi.
Je savais pas du coup qu'il avait déjà bossé avec Scorsese sur Gangs of New York,
ouais. Si ils avaient bossé ensemble, il en a fait d'autres.
Honte à moi, c'est mon film préféré de Scorsese.
Il a bossé avec Fincher sur Millennium, il a bossé avec Sidney Pollack sur L'Interprète.
Ça c'est pareil, c'était écrit Millennium.
Le mec
a pas mal d'adaptations quand même.
Excusez-moi, il a quand même bossé sur Exodus de Ridley Scott.
Aïe. Et oui, mais il faut payer ses impôts.
Attention.
Même quand on s'appelle Zalian.
Non, mais pas mal d'adaptations, n'empêche. Millennium, Hannibal.
Là aussi, ça reste une adaptation.
Oui, une adaptation de
bouquin. Du moins, ce que dit les infos, c'est qu'il y a une inspiration. Je sais pas si vraiment c'est une adaptation, mais c'est vrai que c'est une inspiration de ce bouquin là.
Après, c'est très dur d'adapter bien un bouquin aussi, donc
je dis pas que c'est moins bien, c'est une spécialisation de scénariste.
D'ailleurs, il y a Oscar meilleure adaptation,
tout à fait.
Et avant d'annoncer la date de sortie du film, on rappelle que c'est un film réalisé par Martin Scorsese.
Oh,
ouais. Voilà.
L'homme palmé.
C'est qui lui?
Martin. Et la BA se termine comme elle ne se termine pas souvent dans notre émission, mais sur Netflix le 27 novembre.
Eh oui.
Ah là. Et ouais, car The Irishman ne sortira pas en salle.
No.
Et ouais, et oui, c'est fou quand même. Non, il sortira le 27 novembre sur Netflix. C'est plus de 190 pays qui ont Netflix. Mais le film sortira par contre en salle en Chine, parce qu'ils n'ont pas Netflix là-bas. Donc ils en ont de la chance en fait, eux. Et il y aura également une sortie en salle aux États-Unis. Car,
pour les Oscars
qui est déjà sorti même le 1er novembre, il y a une sortie en salle du film car oui, c'est le seul moyen en fait de pouvoir concourir
aux
Oscars.
Il est en lice pour les Oscars du coup.
Ils veulent. Après, les nominations sont pas tombées, mais
ouais,
ils veulent
que le
film soit
éligible. Il n'y a pas encore eu de phase de sélection.
Ils n'ont pas
annoncé la liste des nommés encore.
Mais pour le faire concourir, il faut qu'il soit sorti en salle, comme Roma d'ailleurs.
Roma. Mmh. Donc avant de revenir sur vous, hein, votre avis sur cette sortie seulement sur Netflix et le fait que la France soit privée de sortie en salle d'un film de Martin Scorsese, hein, ce qui est une première, est-ce que ça vous donne envie de voir ce film, cette bande-annonce, Marion?
Oui, alors moi clairement, d'abord parce que c'est Martin Scorsese et que je l'adore. Pour le casting de Fou Furieux et pour l'histoire, le retour aux sources voilà, de films de mafieux de Scorsese. Donc, le seul truc qui me freine un peu, c'est les 3h30 sur petit écran. J'aurais adoré voir ce film en salle, donc c'est un grand regret, mais on en parlera plus tard.
Ouais, mais tu pourras faire des pauses pipi n'importe quand.
C'est pas faux. Et j'en ai même fait pendant La Reine des Neiges, figure-toi.
Clément, est-ce que ça te donne envie de voir le film?
Alors oui, ça me hype de fou. Il y a deux trucs qui me dérangent un peu. C'est le rajeunissement, à voir comment ça passe dans des séquences jouées, quoi. Parce que là, ça va quand même très très vite. Hein. Il ne s'attarde pas beaucoup sur ces moments-là. Et deuxième chose, j'ai peur que ce soit extrêmement classique. C'est-à-dire vraiment la grande saga mafieuse, la petite frappe qui commence, qui me gravit les échelons, tac tac, le procès, la mort, voilà. Bon, j'ai peur de ce cheminement là j'espère qu'il y aura un peu des allers-retours temporels, mais le truc qui me plaît, c'est que c'est Rodrigo Prieto qui fait la photo et c'est le chef-op de Iñárritu, et donc je pense que ce sera pas classique du coup, en tout cas en termes d'esthétique, et qu'on va prendre du plan, du beau plan dans la gueule.
C'est pas Chivo le chef-op de Iñárritu?
Non, Prieto, il a fait ses premiers films Amour Chienne et 21 grammes.
Ah d'accord, et ensuite il a laissé place...
C'est ça, Emmanuel Lubezki.
Kevin, est-ce que tu as envie de voir ce film?
Bah ouais, j'ai envie, c'est Scorsese quand même. Et puis en plus, ce qui m'attire beaucoup dans celui-là, enfin dans la BA de celui-là, c'est que j'ai l'impression que ça va être la rencontre entre le néo-Scorsese et l'ancien Scorsese. C'est-à-dire le Scorsese de Hugo Cabret pour les effets visuels, le Scorsese de Silence pour le côté très... je dirais
long.
non voilà. Long, il est vrai, mais pour le côté jusqu'au boutiste en fait, si tu veux, du propos, avec ces grandes heures de gloire de films, ces tragédies, parce que les films de mafia c'est souvent des tragédies en fait, des rise and fall et tout, et j'ai l'impression que ça va être vraiment la rencontre des deux, et j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne.
Clément, est-ce que tu as envie de voir ce film avec cette
BA? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Kevin et avec Clément et avec Marion aussi.
Elle est d'accord avec tout le monde.
D'accord.
Non, en fait, ce que je trouve intéressant, déjà, j'adore les films de mafieux de Scorsese. Les Affranchis, je l'ai vu assez tard, mais c'est un de mes films préférés, je pense, dans l'absolu. Et alors, contrairement à l'inquiétude de Clément, j'ai l'impression que là, c'est très connoté, effectivement, Scorsese. Du haut de son âge et de son expérience, de même pour les acteurs, et que du coup ça, c'est une autre forme d'iconisation de ce genre de personnages. Je pense qu'ils vont pas du tout être vus de la même manière que dans Les Affranchis ou dans d'autres films plus anciens. Je pense que j'ai l'impression en voyant la BA qu'il y a un mélange d'humanité et de rapport à la vieillesse aussi et au temps, qu'il n'y a pas forcément là où dans ses précédents films on se base surtout sur qui ils sont jeunes et ce qu'ils deviendront. Et là, je trouve qu'il y a plus un rapport arrière on regarde dans le rétroviseur, quoi. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis, j'ai un tout petit peu peur du rajeunissement quand même, effectivement. Mais on verra.
Et toi, Romain?
Non, mais moi, c'est ce qui me donne particulièrement envie, et hormis que ce soit un film de Scorsese, et en plus qui recolle aux sources, c'est qu'il, en plus de recoller aux sources, c'est qu'il fait appel à sa famille, à lui, hein, en introduisant Al Pacino à ce moment-là. Mais revoir De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel dans un seul et même film de Scorsese sur les gangsters, c'est bon, il y a déjà tous les ingrédients qu'il me faut, quoi. Le film pourrait faire 6h, 7h, je m'en fous. Il n'y a pas de problème. Cette BA me donne extrêmement envie de voir le film. Je la trouve super bien construite, notamment dans le fait que la musique et les images se répondent plutôt bien. Il y a un très beau rythme dans la BA que j'espère retrouver dans le film. Et que...
On sait qui a fait la BO d'ailleurs.
La BO du film? Ah non, je ne suis pas renseigné dessus.
El Calculator?
Je ne sais pas.
Il ne sait pas. Mais par contre, ce qui me dérange beaucoup et ce qui me chagrine beaucoup, c'est que la BA ne se termine pas en salle le 27 novembre, mais sur Netflix le 27 novembre. Et je ne sais pas vous, mais moi, le fait de voir un film de Scorsese sur mon petit écran chez moi, alors oui, ok, je serais bien chez moi et tout, mais je n'aurais pas l'ambiance même qu'est le sacré de la salle de cinéma. J'aurais pas le son qui va avec, j'aurais pas l'écran, l'écran énorme pour voir un film de Scorsese, et j'aurais pas cette ambiance-là, et ça, ça va me manquer. Est-ce que vous trouvez pas ça dommage?
Si,
aujourd'hui, ce combat entre Netflix et les salles de cinéma, et notamment la France.
Si, c'est dommage, mais c'est dommage depuis longtemps, c'est dommage depuis qu'il y a des bons réalisateurs qui vont sur Netflix, c'est dommage depuis Okja, c'est dommage depuis Roma, c'est dommage depuis tout ça, mais après, le problème de la France, c'est effectivement la chronologie des médias et la manière dont Canal+, notamment, a la primauté en général sur l'exploitation télé ou VOD des films après leur sortie salle, et qui empêche qu'un film Netflix, comme il sort en même temps sur la plateforme, son jour de sortie c'est sur la plateforme, donc en VOD, donc tu peux le regarder quand tu veux, donc il sort pas au cinéma en même temps. Et c'est vrai que c'est un système qui est un peu mal foutu. Il faudrait trouver un moyen de pouvoir voir les films Netflix en salle, lequel je ne
sais
pas.
Pour le coup, Canal+ et Netflix, maintenant ils sont copains.
Maintenant,
copains,
oui, mais c'est peut-être un premier pas vers justement une entente. Après, comment ça marche? Après, la vraie problématique, c'est même si tu mets les films Netflix aujourd'hui au cinéma en France et qu'ils sortent le même jour sur Netflix, est-ce que les gens vont aller les voir au cinéma? Nous, oui, on ira parce qu'on est cinéphiles, mais
c'est
des gens qui ne le sont pas.
C'est tout le problème, voilà. En fait.
Et je profite de ce moment-là, Marion, pour rappeler la polémique qu'il y avait eu en 2017, parce que Kevin en a un peu parlé. Okja, le film de Bong Joon-ho, a été le premier à faire parler de lui, étant donné qu'il était sorti sur Netflix, mais qu'en même temps, il était présenté à Cannes. Donc on était déjà sur un paradoxe impossible sur ce qui est l'exception culturelle et la chronologie des médias. Juste pour rappeler la chronologie des médias, c'est le fait qu'un film doit sortir d'abord en salle, ensuite doit être exploité
six
en salle,
après,
six mois après, ensuite il y a une sortie DVD, ensuite il faut attendre un certain moment pour qu'il sorte.
Pour que ça soit à la télé.
Enfin, selon les services, mais en gros, les services de vidéo à la demande, Netflix et tout, etc., on est sur à peu près du 6 mois à 1 an, 3 ans, voire même 3 ans d'attente avant qu'un film sorte sur nos écrans, nos petits écrans. Là, pour le coup, le film sortait directement sur Netflix, mais il était projeté à Cannes, et donc ça avait fait un tollé. Ça avait fait un tollé, Okja, Bong Joon-ho.
Ça avait d'ailleurs empêché le film de repartir avec un prix qu'il méritait probablement.
Mais moi, je comprends pas le problème. Par exemple, dans le cas d'Okja, que ça ait été présenté à Cannes et que ça ait pas plu, que ça soit en même temps en sortie sur Netflix. Moi, je trouve que.
Mais je pense que c'est une question d'argent malgré tout, parce que quand un film sort en salle, tu rémunères des exploitants et un distributeur. Quand t'as un film sort en DVD, là, c'est pareil. C'est tous les acteurs de la chaîne qui sont rémunérés sur un DVD. Donc, je pense qu'il y a un gros manque à gagner. Netflix, ça reste un abonnement, c'est quoi, c'est 7 euros, 9 euros en Netflix ?
C'est 10 euros par mois, enfin 11 euros par mois pour la formule moyenne, on va dire, mais
après,
ça peut aller jusqu'à 13 euros.
Je sais pas comment c'est. Je
donc
sais pas
en
comment
gros,
les
l'idée,
ressources...
c'est de boycotter ce qui sort sur Netflix, et en gros, c'était pas acceptable que Okja soit.
En gros,
l'époque,
je t'avoue que j'avais
pas.
En fait, Cannes a fait un rétro-pédalage, c'est-à-dire qu'ils ont dit d'abord, parce qu'il n'y avait pas que Okja, il y avait aussi le film de Noah Baumbach, là, qui était sorti sur Netflix, et ils ont rétro-pédalé en disant, en fait, non, nous, les films qui sortent pas en salle, ils passent pas à Cannes. Voilà. Et donc, bon,
parce qu'il y a une histoire de lobby derrière,
il y a eu des explications plus ou moins vaseuses, plus ou moins convaincantes. Moi, sincèrement, pour donner mon point de vue, je trouve que c'est un combat d'arrière-garde. Je pense que de toute façon, c'est intenable comme position, ce qu'on a en France, et que d'ici un an, deux ans, les films sur Netflix sortiront en salle. Quand tu vois que la Toy Story 4 est déjà disponible en DVD, Blu-ray et tout, donc déjà, tous les délais de chronologie des médias, ils sont en train de les raccourcir parce qu'ils se rendent compte que c'est complètement ridicule. Petit à petit, ils vont tellement les raccourcir que tu pourras voir le film en salle. Mais moi j'avoue, je comprends pas trop parce que c'est bien beau l'exception culturelle, mais il faut voir aussi ce qui est produit en France. Après, on va pas rentrer dans des grands débats, mais le CNC et tout ça, c'est quand même beaucoup de corporatisme. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu du cadre, ça leur plaît pas,
ça,
ils veulent essayer
d'accord.
de gratter de l'argent dessus. Voilà,
non, mais
c'est ça le problème.
On a ce côté qui est un peu français, hein,
on s'enorgueillit que
le changement.
Nous, ça sortira pas chez nous. Ah bah super, bah, comme ça, tu passes à côté de chef-d'œuvre comme Roma, qui n'est pas sorti
Roma,
en salle en France,
en parle aussi,
et qui aurait pu prendre une palme d'or.
Mais je suis d'accord, je pense que vraiment, moi j'ai vraiment pas réussi à me positionner parce que je pense qu'il y a quand même du pour et du contre. Et du coup, si c'est le
je
cas de tous
pas
les
le
films,
contre, je vois pas.
Bah, c'est quoi l'avenir des salles de cinéma si tous les films
aura...
sortent sur des plateformes comme
mais
ça?
Il y aura des publics pour tout. Aujourd'hui, tu peux regarder une série sur ton téléphone comme tu peux aller voir un film à grand spectacle en salle. Il faut accepter qu'il y ait une multiplicité des publics en fait.
Je suis d'accord dans le fait où là, pour le coup, si ça avait été sorti en salle, salle, au moins un minimum, on aurait certainement un minimum d'entrée, parce que mine de rien, tout le monde n'a pas Netflix, et il y a quand même des amoureux des salles de cinéma qui seraient quand même allés voir, dont nous, j'imagine. Du coup, moi, j'ai essayé de répondre à cette question, parce que je ne m'étais jamais vraiment posé la question, et j'ai du pour et du contre. Alors, vous serez peut-être d'accord ou pas d'accord avec moi. Je trouve que niveau pour... Il y a l'exemple typique de The Irishman qui a été complètement abandonné par la Paramount et qui a été sauvé en fait par Netflix grâce justement au budget qui peut se permettre de dépenser, que Netflix peut se permettre de dépenser en fait pour un film comme ça. Et ça rejoint mon deuxième argument qui est la qualité des films et les risques qu'ils peuvent se permettre de prendre. Et le troisième argument pour, c'est donc là, c'est de l'accessibilité, parce que du coup, un public qui est abonné sur Netflix et qui n'a pas envie de payer 13 euros sa place de cinéma en France peut accéder à ce genre de film sans attendre justement 36 mois qu'il puisse passer à la télé. Maintenant, je trouve que ça a quand même aussi des points négatifs. C'est que ce principe-là, c'est le principe même de l'industrie de masse, hein, qu'on peut retrouver par exemple quand tu mets en concurrence la Fnac et une petite librairie. Forcément, la Fnac a des prix beaucoup plus attractifs, des offres plus sympas qui vont, entre guillemets, attirer une clientèle plus large et faire peut-être casser les prix, en tout cas chez les petits libraires. Et encore là, c'est pour la même offre. Là, en l'occurrence, cinéma et télé, le service n'est quand même pas le même. Si on peut parler de service. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Kevin, ça participe pas au financement des acteurs de la chaîne cinématographique en France, et notamment par rapport à l'exception culturelle, puisque aujourd'hui, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, sur un billet de cinéma, sur un film américain, il y a une partie qui revient à la production française, qui permet de financer le cinéma français. Alors, il y a du bon et du pas bon, hein, comme on le disait tout à l'heure. Après, effectivement, ça aurait fait quelques entrées en salle quand même, c'est ce que je disais. Après, que ça n'ait pas été projeté à Cannes, moi, ça ne me pose pas de problème en soi, parce qu'en soi, le but d'un festival, c'est quand même de trouver un distributeur. Donc si là, en l'occurrence, le film n'est pas voué à sortir en salle, je ne vois pas l'intérêt.
Pas que trouver un distributeur.
Il a été en plus sur le marché du cinéma.
C'est d'avoir des prix aussi.
Oui, d'avoir des prix aussi, mais ça ne me dérange pas que, par exemple, là, parce que Cannes a un peu condamné la Mostra pour avoir 1000 films et tout, c'est un autre système en Italie, donc ça ne me dérange pas, et je considère que Cannes n'a pas à dicter aux autres festivals ce qu'ils doivent faire. Mais en l'occurrence, même si c'est très prestigieux, le principe même du festival, c'est de trouver un distrib.
Pour revenir justement sur le cas Roma, Roma d'Alfonso Cuarón est une des plus belles œuvres que j'ai pu découvrir ces dernières années. Vraiment, qui m'a touché au plus profond de moi-même, parce que j'ai trouvé que c'était du cinéma avec un grand C, comme on en fait rarement. Si j'ai ressenti ça sur mon écran, j'imagine même pas ce que j'aurais pu ressentir en l'ayant vu dans une salle de cinéma dans les meilleures conditions possibles. Et c'est ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que d'un côté, on a les réalisateurs qui font du coup confiance à des plateformes comme Netflix, il y en aura certainement d'autres, parce qu'on leur offre une liberté, et parce que d'un côté aussi, les productions n'osent plus trop se mouiller, parce qu'aujourd'hui, on recherche le bankable, on recherche le profit.
Est-ce qu'on n'idéalise pas un peu aussi la liberté
coup, c'est méga bankable.
Et le problème qui se crée à ce moment-là, c'est que ça nous empêche de vivre une œuvre artistique comme elle devrait être vécue. Je ne pense pas que quand il l'a créé Roma et qu'il l'a tourné, Alfonso Cuarón voulait que tout le monde le voit sur son écran de télé, il voulait que ça sorte au cinéma. Alors des pays ont eu le droit de le voir au cinéma, nous on n'a pas eu le droit en France. Alors,
et en plus on en est fiers.
Donc moi ce qui me dérange
moi j'ai entendu Frémaux et tout dire que c'est
donc
voilà,
oui il peut y avoir des qualités il peut y avoir des qualités comme des défauts personne, mais un des défauts principaux c'est de pas découvrir vraiment une œuvre artistique à 100% parce que on est bloqué par notre exception culturelle à la con.
Non mais t'as raison, et en fait le truc c'est qu'il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné Netflix devienne distributeur de films, c'est-à-dire
oui,
qu'il
mais
faut
je suis d'accord, il y a un équilibre à trouver, oui.
Décide effectivement, mais après ça va créer un autre problème, c'est-à-dire que si Netflix décide par exemple de dire écoute, et tous mes films 6 mois avant d'être sur Netflix ils sont au cinéma, ça veut dire qu'on n'aura jamais de sortie physique, et c'est aussi moi un truc qui me pose problème. Mais il faut trouver un équilibre parce que le cinéma, l'essence du cinéma, c'est la salle de cinéma. Sinon, c'est
oui, mais pourquoi t'aurais pas de sortie physique? Tu pourrais l'avoir plus tard, considérant les plateformes comme Netflix comme de la VOD.
Quel est l'intérêt de Netflix de sortir une version physique si c'est en streaming sur leur plateforme?
Tu ne verras jamais un coffret Stranger Things, par exemple.
Ça n'a pas d'intérêt pour eux, en fait. Ils s'en fichent. C'est ce qui fait que tu vas sur Netflix, c'est parce que.
Si c'est momentané, ils pourraient l'enlever du catalogue au bout d'un moment.
Ou faire des éditions limitées, peut-être. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a un équilibre économique à trouver. Après, c'est à voir avec Netflix comment ils se démerdent. Je sais qu'ils arrivent à se débrouiller avec les États-Unis pour qu'il y ait des sorties salles. Je sais que, par exemple, la Corée, Bong Joon-ho, ils ont une projection coréenne de Okja. Je vois pas pourquoi nous on pourrait pas trouver un compromis.
Mais en fait, on est tous d'accord, mais le problème, c'est pas Netflix, c'est la France.
Parce que Netflix, eux, ils veulent sortir les films à Cannes, ils veulent les sortir en salle et tout, mais nous, on veut pas parce que c'est en VOD en même temps.
Parce que voilà, rien n'empêcherait d'avoir des séances de Roma au cinéma. Et c'est dommage parce que Roma est le cinéma est le seul moyen pour faire découvrir Roma à 100%, parce que c'est un film qui a un énorme travail sur le son, et je n'ai pas, moi, chez moi... J'ai pas le home cinéma qu'il faut, j'ai juste du son qui sort de ma télé, quoi. Donc
mais
on
du
est
coup
loin
j'ai une question sur Roma. Est-ce que justement pour le coup ça n'a pas servi le film d'avoir cette polémique autour d'un film qui n'a pas pu être sorti au cinéma, et ça l'a peut-être un peu plus mis en lumière, parce que je suis pas sûre qu'un film qui sorte comme ça au cinéma attire.
En fait, il devait faire Cannes, et c'est là où ils ont rétro-pédalé, et je pense sincèrement qu'il aurait eu la Palme d'Or. Enfin.
Mais moi, je me demande même si ça nuit pas au-delà des entrées et du côté money system, si ça nuit pas à la manière de consommer l'œuvre, parce qu'en fait, effectivement, à qui ça s'adresse Roma, enfin, c'est pas la question, je veux dire, ça serait au ciné, les gens pourraient y aller à la limite par curiosité, mais au moins, ils seraient dans la salle, ils seraient bloqués, ils seraient devant le truc et ils le découvriraient. Et je trouve que d'être sur une plateforme comme Netflix, je suis sûre, en fait, on compte pas ça, mais le nombre de gens qui doivent s'arrêter en cours de route, quoi, et passer à autre chose.
Mais le problème, c'est que sans Netflix, il n'y a pas le film. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est-à-dire que personne voulait le faire.
Oui, mais
Roma.
Je me demande quand
pareil,
même si ça nuit pas aussi, même vis-à-vis des personnes qui sont quand même cinéphiles et qui aiment quand même le cinéma, à la démarche de regarder réellement le film et de prendre ce temps.
Voilà. En tout cas, le pied de nez qui a été fait, c'est que après la polémique Okja, Bong Joon-ho a remporté la Palme d'Or avec son Parasite. Alfonso Cuarón, lui, a décroché l'Oscar du meilleur réalisateur, et franchement, personne ne peut le contester.
Et meilleur film étranger, il a pas eu aussi ?
Je ne sais plus.
Je crois qu'il avait eu meilleur film étranger.
Énormément de distinctions pour Roma. Bref, en tout cas, la polémique Netflix, d'accord, mais ça n'empêche pas que les qualités de film sont au rendez-vous.
C'est clair.
Voilà, donnez-nous juste des salles pour pouvoir les apprécier pleinement, quoi, ces films-là. Après ce débat-là, on va passer à la rubrique du fait ton titre.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Après avoir parcouru la BA de The Irishman, le prochain Scorsese et ce débat sur Netflix, nous allons maintenant attribuer un nouveau titre à The Irishman. Quel sera-t-il du coup ? Est-ce que la team a bien potassé cette semaine ? Qui se lance ?
Moi je vais bien.
Allez Marion, vas-y.
J'ai voulu rendre hommage à mon film préféré de Scorsese. Alors ça va peut-être en faire bondir plus d'un, mais bon, moi j'adore Gangs of New York. Et du coup j'ai appelé ça Gangs of Scorsese, parce que je trouve que c'est le retour des vieux de la vieille, et ça fait bien plaisir.
J'aime beaucoup.
C'est très beau.
J'ai pensé à quelque chose dans le genre et j'ai pas trouvé aussi bien que toi.
C'est très très beau.
Je suis ravie.
Très bien. Gangs of Scorsese pour Marion.
Sympa.
Clément, est-ce que tu as un titre ?
Ouais. Alors, moi j'ai deux titres et une punchline. Une petite référence par rapport à Martin à la plage, etc. Là, c'est Martin Scorsese. C'est Martin à Philadelphie.
Et sans déconner, je crois que vous arrivez à faire une référence à la série Martin à chaque épisode.
Chaque épisode, et ça fait sens d'ailleurs. Après, un titre dont je suis pas peu fier, parce qu'il y a beaucoup de vieux dans le film, j'ai appelé ça EHPAD, pitié pour les traîtres. voilà.
Après, c'est vieux.
Et sinon, j'avais une punchline, mais à voir avec quel titre on peut la mettre. Ça serait Un ami qui vous veut du blin, parce qu'il est irlandais.
Joli, joli.
On ça peut rien dire, mais
j'ai mangé comme un blin.
Oui.
C'est rien du blin.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on retient rien de Clément?
Attends, c'est pas ce qu'il y a après.
Méchant, méchant.
On verra ce qui arrive après. Vas-y, Kevin, toi, t'as quoi?
Alors, moi, j'ai un titre et une punchline. Mon titre, c'est L'app franchie, parce que Netflix est une app et il a franchi le cap d'être sur une app, donc l'app franchie. Et ma punchline, c'est pas de ciné, mais pas de chino.
Pas de
Pacino.
Pas de ciné, mais pas de chino.
Pas de ciné, mais pas de chino, c'est trop bien. Mais ça, c'est trop bien.
Ça, c'est bien.
Alors, j'aimais bien le titre, mais pas
Moi, c'est l'inverse. J'aime pas le titre, j'aime
pas
la punchline.
J'aime pas le
titre,
mais
la punchline, elle est bien.
Parce qu'on peut pas dire que c'est une app. Je veux dire.
Si, c'est une app Netflix à la base, mais j'avoue que c'est peut-être un petit peu tiré par les vaches.
Non, mais j'ai bien aimé.
Un peu capillotracté.
Pas de ciné, mais pas de chino, j'aime bien. J'aime bien, ça, c'est marrant.
Moi, j'ai un truc super.
J'ai un titre, il est absolument
super. C'est bien,
super.
Ça change, parce que la semaine dernière c'était moi, j'ai un truc.
Accrochez-vous à
vos
chaussettes.
J'ai changé de méthode.
Ça va décoiffer. Alors 1, 2, 3, c'est parti, mon titre, le voilà.
Je l'ai trouvé 2 minutes avant l'épisode.
C'est ça le titre ?
C'est une petite référence à Ed Sheeran, c'est Shape of Robert.
Aïe, 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 aïe.
Bah, je crois qu'on va prendre le titre de Marion.
Aïe, aïe, aïe. Bah non, mais bah, moi, j'ai pas cherché loin.
Ah ouais, ton titre, je... pardon, je t'oublie.
Moi, j'ai fait appel à mon exotisme. J'ai voulu appeler ce film « Vas-y, Francky, c'est bon
ah ». Putain, mais on a que des punchlines, on a pas de titre.
Vas-y, Francky, c'est bon.
À part si on garde « EHPAD, pitié pour les traîtres ».
J'ai en doute.
Gangs of Corsese et pas de ciné, Pacino.
Bah, Gangs of Corsese.
Gangs of Corsese, ouais. Il claque, il claque.
Et pas de ciné, Pacino.
Voilà.
C'est pas de ciné, mais Pacino.
Patiné, ah, okay. Mais
oui, oui, il faut être précis parce que
Pacino, c'est le chino, le pantalon Pacino. Ouais.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé encore fashion dans cette épisode.
C'est vrai, mais ça arrive avec la Reine des Neiges.
Et on a très peu chanté aussi.
Ça oui. Dans un autre monde.
On dirait des Gremlins.
Allez, on se calme et puis on va résumer ça. Mais c'est vrai que bon, bah, Clément, désolé, Clémence, bah, désolé. Nos grands vainqueurs cette
j'y
semaine.
Croyais pas beaucoup.
Bah, Romain, désolé, hein, bah, de rien. nos grands vainqueurs cette semaine seront Marion et Kevin. Qui Kevin est... qui décroche la punchline et Marion qui prend le titre. Alors le nouveau titre. Ah, on l'applaudit.
Tap, tap, tap. Clap,
clap, le clap, nouveau clap, titre, clap, clap. Très très bon titre, sera donc pour The Irishman, Gang of Scorsese, un film qui sera pas au ciné, mais avec Al Pacino, donc pas de ciné, mais Pacino.
Pacino.
Ah, oui. Voilà, bravo, bravo à tous. Donc le 27 novembre sur Netflix, nous on se fera le match retour dès la semaine prochaine et en parlant de match retour, on va changer de cap radical pour le coup, on va partir sur la Reine des Neiges 2. Et il y aura du débat entre la team mitigée et la team enjaillée. DJ,
ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul!
Dans un autre monde!
Match retour.
La Reine des Neiges numéro 2 qui vient directement après La Reine des Neiges de 2013
premier.
Qui avait fait, on le rappelle, un succès retentissant dépassant la barre du milliard de dollars, chose qui est plutôt rare chez les films d'animation. Avant ça, on s'était imaginé, enfin, avant d'arriver à nos avis sur le film, on va rappeler l'histoire qu'on s'était imaginée à partir de sa BA dans notre épisode précédent. Alors la voici, cette histoire imaginée. Il était une fois deux sœurs, une sorcière et une moldue, qui partent à la recherche de leur flashback. En effet, petites, leur papa pas encore mort, leur racontait l'histoire d'une forêt enchantée impénétrable. Ce sera là des années et un numéro 1 plus tard, le lieu de leur aventure. Elsa donc, la Reine des Neiges Super Saiyan Transformation 2, sur les conseils du Roi des Cailloux, et après avoir explosé en milliers de Sims, partira à la rencontre de Patatras, le brouillard méchant qui bloque l'entrée de cet autre monde. Mais ce ne sera pas sans compter sur sa sœur rousse pot de colle, son cum blasé, un bonhomme de neige maladroit et un reine des neiges qui se sacrifiera pour sauver le groupe. Ainsi sera formée la communauté de l'anneau, dont la mission sera de réunir deux peuples ennemis, Arendelle et cette fameuse forêt enchantée.
Waouh!
Voilà en gros ce qu'on avait pu imaginer.
Bah c'était mieux.
Avant d'annoncer quelles seront les teams, fameuses teams enjaillées et fameuses teams mitigées, hein, je vais demander à un d'entre vous de nous résumer la véritable histoire. Et comme c'est celle qui nous écoute le moins en ce moment et qui est sur son portable pendant que je parle, oui, Clémence,
je fais un virement.
Tu le sais en plus.
Je fais un virement.
C'est très urgent.
Je paie ma taxe d'habitation, excusez-moi.
Ce n'est pas une bonne excuse.
Oh putain, la taxe d'habitation.
Elle est prélevée automatiquement, n'est pas peur.
Aujourd'hui.
Voilà, les colocs là-haut.
T'as découvert.
C'est intéressant.
Je ne couperai pas ça parce que les gens ont besoin de savoir.
Ils veulent savoir.
Que comme vous tous, comme nous tous, nous payons aussi une taxe d'habitation. Clémence, oui. Le résumé de La Reine des Neiges 2.
Alors, effectivement, j'ai pas trop écouté la fausse histoire, donc je sais pas.
Bah, non, mais dis la vraie.
La vraie histoire. Alors, c'est la suite de La Reine des Neiges. Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Explique le 2.
Parce que Elsa est la reine, que tout le monde est content, que Anna.
T'as juste trouvé le principal, ça
Anna
commence
et Christophe
sur un compte.
Sont amoureux, Olaf est content, mais quand même le temps passe. Et puis Elsa est toujours aussi bizarre en vérité, parce que quand ils font des charades, elle entend des voix.
Et après on parle de ma capacité à résumer les films.
Mais hein. Ben, attends.
Elle nous fait une Bruno.
Attends, elle pose
le contexte. Bah oui, je pose le contexte avec un peu d'esprit.
En quelle année?
Et...
La meuf, quoi. Un peu de. Ouais, d'érudition.
Et au moment, et au moment fatidique où Elsa doit faire deviner le mot neige au charade, glace. Elle glace. Entend cette voix. Non, neige. En français, bah, AGBAVF.
En anglais, c'est glace.
C'est glace, c'est glace en français
neige.
Aussi.
C'était neige.
Non, c'était glace.
Et donc, elle entend des voix et la malheureuse, elle ne peut pas s'empêcher la nuit d'être somnambule. Et d'aller réveiller les Sims.
Ce résumé est plein de mauvaise foi, je le dis tout de suite.
En fait, ça fait écho, ça fait allusion. Parce que quand elles étaient petites, leur père leur avait effectivement raconté l'histoire de la forêt enchantée dans laquelle il était allé avec le grand-père. Et donc, le grand-père était allé avec dans la forêt enchantée faire ami-ami avec un
terrible.
Peuple. Et ça avait mal tourné. Et finalement, la voix, quand on Elsa, elle vient de cette forêt enchantée. Mais
attends,
cette forêt
attends,
enchantée, depuis toutes ces années, elle est sous la brume.
Un petit sondage express, qui se fait chier là?
Bah, autant que
c'est mais j'ai pas vu ce film-là.
Mais en plus, je résume mal.
Mais non, mais moi, on me demande toujours de résumer en 3 phrases. Ça fait 10 phrases pour les 5 premières
minutes. Parce que t'es à la 5ème minute du film, Clémence.
Mais dis, raconte l'histoire.
Elle a entendu une voix et ça vient de la forêt enchantée. Et il y a de la brume, mais elle peut passer parce qu'elle a un pouvoir. Elle s'en bat les couilles. Je cite une petite fille dans la salle. Et.
Elsa,
et elle y va avec sa sœur parce que sa sœur veut toujours être avec elle forcément et que Christophe veut être avec sa sœur parce qu'il veut la demander en fiançailles et
ken,
que Olaf veut se...
Je crois qu'ils ont déjà ken.
Tu crois qu'ils ont déjà
ouais,
ken
je pense qu'ils ont déjà
bah, je crois pas. Hein.
Si, si.
C'est
ça,
Disney.
Ça se, voit,
pas, hein.
ça se voit sur la tête d'Anna qu'elle est plus pucelle.
il se trouve... Attendez, je termine juste mon résumé. Il se trouve que quand ils arrivent dans la forêt enchantée, ils se rendent compte qu'il y a quand même les 4 esprits des éléments de la nature qui sont présents et qui foutent un peu le bordel. Et Elsa, avec ses pouvoirs, va réussir à faire entendre raison à ses esprits. Et après, mystère, et il y a un 5ème esprit. Mais qui est-ce? Oh, suspense. Voilà.
Olaf.
Wow.
c'est pas du tout clair.
C'était une catastrophe.
Alors, petit sondage express, qui a compris?
Non, mais je suis proche de l'intrigue, franchement.
Mais non, l'intrigue,
mais non,
c'est
t'as
pas
dit le conte.
Ça.
Au début, il y a un conte, c'est ça qui conditionne tout.
Mais oui, c'est la rivière à bout de là-bas qui a les souvenirs.
Mais oui, voilà, ça c'est bien.
J'ai envie de repasser tous les moments où Clémence, elle critiquait les
ouais. Clémence, elle a voulu rendre hommage à Olaf quand il fait le résumé du 1.
Ah
voilà.
Oui, c'est vrai. T'as été influencé.
Bon, bah, une histoire résumée, hein. Voilà, je mettrai pas d'adjectif parce que j'en ai pas. Une histoire résumée.
Résumé, c'est un adjectif là dans
une histoire
cas-là.
De manière approximative.
Et maintenant, on va passer à la page du douille ou pas douille.
Douille pas douille.
Alors, le douille ou pas douille, mais qu'est-ce que le douille ou pas douille? Je vous le demande.
Bah, c'est quand on dit si c'était une douille ou si c'était pas une douille par rapport à la bande-annonce.
On compare la BA au film. Est-ce que la BA nous a vendu un bon film? Est-ce que la BA nous a vendu
un mauvais film
Où est-ce qu'on se situe dans tout ça? Douille ou pas douille, elle va nous faire aussi savoir qui est dans quelle team. Marion, douille ou pas douille?
Oh, moi, je suis une team très, très, très surprise pour vous, j'imagine. Non, mais bon, moi, c'est sûr, j'ai aimé. Pas douille.
Si, pas douille,
je sais que vous êtes tous très surpris autour de cette table, mais pas douille, j'ai eu ce à quoi je m'attendais, voire plus.
Ok.
Voilà, je donnerai mes arguments plus tard.
Ah oui, c'est plus
quand même.
Kevin, douille ou pas douille?
Bon, pas douille, en même temps, je dois dire que moi je m'attendais pas non plus à grand chose, donc pas douille, j'ai eu ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire un Disney...
Nul.
Je ne vous dis pas dans quelle équipe je suis.
Je te rappelle que tu as dit team mitigé, donc nul pour quelqu'un de mitigé,
ouais,
je
non.
trouve ça un peu
j'suis,
fort.
Franchement, je suis mitigé, mais côté tigé.
Une défenseuse des...
Oui, je vais me battre.
Elle se bat
en
pour la reine
des
neiges.
Clément, team enjaillé ou team douille ou pas douille?
Moi, je vais être team enjaillé parce que contre toute attente, j'ai aimé le film. Donc, je dirais douille positive parce que j'étais tellement pas hypé par la BA, ça me disait tellement rien que le film, au final, a été plutôt une plaisante surprise.
Ouais, mais ça, c'est
tu dis ça bien.
Ça, c'est parce qu'on tient à le rappeler, t'avais pas vu le 1.
Non, moi, j'ai vu le 1 et j'ai aimé quand même.
Chut. Clémence, douille ou pas douille?
Douille. Parce que...
Même pas de réflexion.
Bah déjà, Clémence n'a pas compris l'histoire.
Mais arrêtez. Oh, et non, vous n'allez pas faire genre, l'histoire, elle est trop compliquée pour moi, parce que voilà l'histoire.
Mais
quoi.
Elle n'est pas résumée, l'histoire.
Mais voilà l'histoire, mon frère, c'est clair.
On s'en fout, c'est un film d'animation, allez le voir, payez votre place.
Non, mais,
c'est
mais
tout ce qu'ils attendent.
Douille, parce que mine de rien, la BA au moins me laissait l'espoir d'être surprise par l'histoire, parce que c'était très mystérieux, et en vrai, je suis très déçue par cette
intrigue.
Et toi, Romain, douille ou pas douille?
Moi, ça y est, j'ai dépassé ce stade. Hein. Je crois qu'on n'en est plus au douille ou pas douille. On est, c'est plutôt, tu t'es fait chier ou t'es pas fait chier? C'est plutôt ça. Eh ben, non, mais je dirais pas douille parce que comme vous l'avez dit, on fait par rapport à notre ressenti BA. Et moi, mon ressenti BA la semaine dernière, c'était pas plus que ça. Non, je voyais clairement dans cette BA simplement cette existence du numéro 2 de cette suite. Simplement l'appât du gain de Disney parce que c'est leur nouvelle marche à suivre, hein, maintenant c'est simplement si ça marche on fait, si ça marche pas on fait. Donc
ça fait 50 ans qu'ils font ça,
donc
quand
ça
même,
fait de la thune. Donc moi non, pas douille, c'est à dire que je m'attendais pas à un film ouf, hein, j'avais même dit que je pensais pas qu'il allait atteindre le premier
Ouais, mais j'avais pas le souvenir que t'étais si négatif par rapport à la BA.
Si quand même mais donc non, j'ai pas été emballé par le film, pas du tout même. Je me suis même beaucoup énervé devant ce film. Donc on va passer aux avis maintenant. Hein. Mmh. Donc la team enjaillée, on va rappeler la team enjaillée.
Pourquoi
c'est donc...
nous en premier? Après on va se faire démonter.
J'ai pas dit que vous allez. J'ai pas dit.
Ah
que
d'accord.
Non, rappelle les teams.
Mais
on rappelle les teams.
Vous allez commencer du coup.
Donc la team enjaillée. Pourquoi nous en premier?
Ouais,
on va se faire démonter.
Moi je m'en bats les couilles de me faire démonter. Je reprends la petite fille de votre séance de cinéma. Moi j'assumerai jusqu'au bout d'avoir aimé, même si je suis toute seule et je suis ravie que tu sois avec moi, Clément.
Donc,
voilà.
Marion est dans la team enjaillée. Clément est dans la team enjaillée et team mitigée.
Coucou,
trois personnes.
C'est nous.
On est là.
Qui veut lancer les hostilités là? Qui veut lancer le premier?
Vas-y, Kevin.
Moi?
Allez. Bah oui, tu commences jamais.
Alors.
C'est vrai?
Non, mais après, moi je suis dans la team mitigée dans le sens où, franchement, c'est pas un film pour lequel j'avais des attentes extraordinaires non plus. Je suis pas un fan absolu de Disney. Donc le fait que le film soit un peu nul, au fond, je m'en fous. Mais je dois dire qu'il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont agacé. C'est-à-dire que, franchement, tout l'arc narratif du mariage, moi, ça m'a gonflé, quoi. Parce que, soi-disant, la Reine des Neiges, c'est quelque chose de progressiste et tout, girl power et tout, mais t'as quand même une des personnages principales. Son seul but dans la vie, c'est de se marier avec son cum, quoi. Donc, je suis désolé.
Non,
je ne suis pas d'accord.
Un des personnages principaux, son but, c'est de se marier avec sa meuf.
Oui,
ça n'est
après,
pas du tout
après quand il la demande en mariage, elle est en mode ah, je chiale.
Quand mon mec m'a demandé en mariage,
on laisse parler Kevin.
Moi, je trouve ça
s'il vous
drôle.
Plaît.
On laisse parler Kevin.
S'il vous plaît. Merci.
On laisse saturer Kevin.
Néanmoins, ça c'était juste un détail.
Vénère la Reine des Neiges.
Je trouve quand même que c'est. Après, voilà, c'est pas de la merde. Je vais pas non plus taper sur la Reine des Neiges. Je m'en fous. Je vais pas le détruire le film.
Elle te défonce la Reine des Neiges, façon.
Elle me défonce. Elle a des poires de glace. Non mais après, moi je trouve que c'est un film qui est quand même malheureusement globalement chiant. Enfin, moi je me suis pas mal fait chier. C'est très prévisible. Et après, tu me diras, c'est pas forcément un défaut parce que c'est un dessin animé
non,
pour enfants.
Non, c'est ça. C'est cousu de fil blanc.
Mais c'est cousu de fil blanc dans la mauvaise façon. C'est que tu vois tout arriver, t'as pas de surprise, tu sais tout ce qui va se passer. Je trouve que les chansons, enfin moi je l'ai vu en français, ça joue peut-être, les chansons sont insupportables. Enfin la musique, c'est pas possible quoi, j'ai mes oreilles qui ont saigné tout le long quoi, et j'en pouvais plus. Après, Olaf m'a fait rire. Je trouve que quand même graphiquement, il y a du boulot, c'est joli. Enfin, je vais pas. Je vais pas nier le truc. Mais je me suis globalement emmerdé, et c'est vraiment pas un film que je retiendrai cette année quoi.
La team mitigée a-t-elle des choses à rajouter, Clémence?
Oui, j'ajouterais que je suis d'accord avec Kevin et que, à mon avis, c'est aussi un problème d'intensité, en fait, au-delà de l'écriture. J'ai l'impression que ça pourrait être le même scénario, la même intrigue qui est assez simple et qui est effectivement enfantine, mais qui manque une vraie intensité, à part à des moments où ça joue sur la perte d'un personnage important ou la découverte de la vérité. Sinon, la manière dont avance le scénario, en fait, ça s'enchaîne, je trouve, comme une vieille série qui n'a aucune intensité. Je suis pas prise du tout dans l'histoire.
Ouais. Oh, tout d'accord. TV, un peu.
Pour récupérer un peu ce que vous avez dit, je suis d'accord. Les chansons, c'est peut-être ce qu'il y a de bien. Et encore, je trouve qu'il y a vraiment, il y en a deux, trois qui sont en trop. Notamment celle de Christophe là, qui on dirait un Backstreet Boys.
Elle est géniale, cette chanson.
Trop de la balle, cette chanson. Quoi.
On est sur une parodie de trucs. Je sais pas où est-ce qu'ils ont voulu aller. Mais ensuite, pour moi, l'histoire est cousue de fil blanc, elle est vide aussi, elle est méga vide. C'est une histoire où alors on a chopé des bouts comme ça, on s'est dit, il va nous falloir un lieu, il va nous falloir une quête. Alors on prend les trucs les plus pétés et puis on essaye de faire en sorte que ce soit relié. Je me suis pas du tout retrouvé dans la quête des personnages, je me suis pas du tout retrouvé dans les personnages. Contrairement là où dans le premier, même si j'étais un peu à l'écart parce que c'est pas ma came les films de Disney Princesse, mais j'ai reconnu beaucoup de valeur au film. Là, pour moi, je ne voyais que devant moi, l'application d'un schéma classique uniquement là pour faire en sorte que ce numéro 2 puisse lui aussi faire le milliard. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, c'est peut-être mon vieux conisme qui parle, mais je ne vois plus que ça chez Disney. une fois que ça marche, on lâche pas la poule aux œufs d'or. Et je n'ai vu que ça tout le long du film, dans le sens où ça ne m'a offert rien d'autre qu'une histoire bête et méchante qui ne vaut certainement pas le rang de suite et qui n'est certainement pas une bonne suite pour moi.
Allez, un peu de douceur dans ce monde de brut.
Je vais rebondir parce que je m'attendais pas à être autant pas d'accord avec vous. C'est vraiment, j'ai vraiment pas du tout vécu le film comme vous.
Ça a été très dur de se taire.
Déjà techniquement, moi j'ai trouvé le film magnifique. Je trouve qu'au niveau des textures aquatiques notamment, enfin et c'est, enfin j'ai trouvé ça hallucinant. Dans un film en 3D, j'avais jamais vu l'eau aussi bien faite et c'est quand même un élément central du film. Je trouve que c'est bien réalisé. J'ai trouvé qu'il y avait plein de détails. J'ai trouvé que justement c'était bien rythmé entre narration et chanson parce que moi j'aime pas trop les comédies musicales. Et là, c'est pas on chante tout le temps parce que des fois dans les comédies musicales c'est genre je me brosse les dents. Bon là il y a 5-6 chansons dans le film et il y a quand même beaucoup d'aventures au milieu. Ouais bon 8, mais enfin en tout cas je les ai pas senti passer. J'ai trouvé les chansons très bien, en tout cas en anglais elles rentrent très bien. La chanson de Christophe, j'ai trouvé que c'était limite une des meilleures, c'est très drôle, c'est une parodie de chansons Disney dans un film Disney avec des références aux boys band, des références à Queen et tout. Enfin je m'attendais vraiment pas à ça dans un film La Reine des Neiges, sincèrement j'en attendais pas autant. Les dissonances que j'avais trouvées dans la chanson en BA, en fait c'est expliqué parce que c'est la voix qu'on entend dans le film, donc en gros c'est la voix qui fait une espèce d'interférence dans le quotidien d'Elsa, donc bon c'est justifié pour moi harmoniquement. Après moi j'ai adoré, ouais voilà ce gimmick là, après moi j'ai adoré l'humour du film, j'ai trouvé ça très moderne, notamment Olaf qui a des bonnes blagues, mais pas que, il y a plein de petites vannes sur Andersen, voilà il y a une vanne sur Game of Thrones à la fin, je sais pas si vous l'avez capté, quand il dit les choses qu'on ferait par amour, voilà. Et oui. Et après, ben, moi je trouve qu'on est tellement souvent atterré par les personnages féminins qui sont complètement cruches dans 90% des films qu'on voit, que je suis un peu étonné que vous n'ayez pas relevé quand même que c'est un film de meuf forte, indépendante, qui ne dépend d'aucun homme. L'homme, il a la quête amoureuse dans le film, ce qui est quand même très rare dans un film d'animation. Généralement, les hommes, ils font l'action et les femmes, elles amènent la quête amoureuse. Là, c'est complètement inversé ce rapport-là. Et c'est des femmes qui qu'elles aient des pouvoirs ou pas, sont fortes, s'entraident, se sortent des situations. Et je trouve aussi un truc très important, elles sont badass sans être masculinisées. Parce que par exemple, dans Mulan, elle est badass, mais la meuf, elle est obligée de rentrer dans l'armée, de se couper les cheveux pour être badass. Là, la meuf, c'est une princesse, elle est sur un cheval de glace et elle poutre des éléments et tout.
Ouais,
et
moi, Chine, c'est chaud, frère, aussi.
Moi, j'ai trouvé ça assez cool de voir ça. Et faut pas oublier qu'on a 31 ans, qu'on est quand même pas la cible du
30,
film. 30
ans.
Oh, 30 ans, qu'on n'est pas la cible du film. Et moi, je me dis, une petite fille qui voit ça en 2019, c'est cool. C'est un personnage qui est inspirant, qui est belle et tout, mais qui est aussi forte et qui a plein de personnalités. Et moi, j'ai adoré Anna dans le film. Et donc, bah, après, je te laisse parler, Marion, parce que ça fait une heure que je parle.
Ouais. Oui, mais globalement, moi, j'ai peu de choses à rajouter sur ce que tu as dit parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, moi qui ai vu le 1, bah, contrairement à d'autres, je trouve que... Non, mais parce que je sais plus qui l'a dit, mais...
Ça y est, elle nous ignore.
Oui, voilà, je ne vous regarde plus.
Je ne vous parle plus.
Je ne vous regarde plus.
Elle est sur son nuage, là. Elle est en train
mais,
de juger.
Mais contrairement à ce que vous en avez dit, moi honnêtement j'ai vu le 1 et je trouve que le 2 est complètement fidèle à l'esprit du 1. Alors oui, c'est un film Disney, oui c'est un numéro 2 sur le plus gros succès animé de Disney. Bon bah oui, c'est pour faire du fric, quelle surprise. Ça fait des années qu'ils sont sur ce modèle-là. Moi je trouve que c'est très bien fait, que les chansons sont très bien, comme l'a dit Clément. Pas du tout d'accord avec vous, la chanson de Christophe, je trouve que c'est une des meilleures. Et effectivement, beaucoup d'autodérision. Parce que c'est très clipesque ce moment-là. Beaucoup de dérision sur bah justement Elsa qui à un moment donné passe à côté de son double de glace en train de chanter Let It Go et qui se dit oh mon dieu.
Comme si elle en avait honte un peu. Ouais.
Comme si elle en avait honte parce que ça a fait quand même tout un foin. Et puis Olaf qui est quand même vraiment le gage humour du film, second degré à mort, qui à aucun moment est lourd, ce qui pouvait quand même.
On pouvait
le craindre un peu parce que dans le 1 ça aurait pu prendre cette tangente là et là il est vraiment très drôle. J'ai beaucoup aimé les thèmes abordés, donc bah voilà, on retrouve l'émancipation, le sacrifice, il y a la paix entre les peuples. Alors c'est bateau, c'est pas bateau, ça reste voilà un
c'est
film
ça, le problème.
C'est comme d'habitude en fait, c'est les valeurs que Disney va défendre, c'est oui bah c'est des jolies valeurs, c'est
l'écologie aussi.
Oui, il y a l'écologie, l'indépendance, comme tu l'as dit, l'indépendance vis-à-vis des hommes, parce que c'est tout à fait vrai, la quête amoureuse, c'est Christophe qui l'amène et pas Anna. Et voilà, moi je, honnêtement, j'ai passé un bon moment. J'ai peut-être mis, pour être honnête, j'ai dû mettre bien 10 bonnes minutes à me mettre dans le film. J'ai peut-être eu un peu peur au début, mais en même temps, je trouve ça hyper dur de comparer un film que j'ai vu 20 fois et auquel je me suis attachée à un film que je vois une fois au cinéma comme ça. Je le reverrai, c'est sûr. Je l'achèterai, c'est sûr. Et je jugerai plus tard si je l'aime autant que le premier, quoi.
En fait, il y a un truc qui me dérange quand vous dites qu'il y a un côté progressiste du film. Je suis d'accord qu'il y a plein d'avancées sur plein de petits détails, mais il y a quand même un truc, je ne m'attendais pas à ce que ça me dérange, et ça m'a dérangé, c'est l'aspect sororité. D'une, parce que le personnage d'Anna, personnellement, je le trouve insupportable dans son côté contrôle freak et je ne laisse pas d'air à ma sœur. Et justement, parce que je trouve qu'il y a un côté... les deux sœurs, elles sont presque comme les deux facettes d'une même personne, indivisibles. Et en fait, il y a un truc qui me dérange, c'est que malgré tout, même si on inverse plein de choses, des choses qui sont censées être pour les garçons et des choses qui sont censées être pour les filles, là on inverse, on laisse quand même d'un côté les garçons et d'un côté les filles. Je trouve qu'il y a un truc, moi ça me touche pas, et je suis sûre qu'il y a plein de filles que ça ne touche pas, cette proximité avec sa sœur, cette fusion en fait, ce côté fusionnel avec la sœur. Moi, ça me dérange, en fait, quand je vois ça. Je trouve qu'il y a un côté un peu malsain et j'aime pas trop qu'on donne ça comme un modèle, en mode, entre filles, on est trop fortes ensemble, alors que tu peux être seule, forte, enfin, forte toute seule.
Elles sont séparées longtemps dans le film.
Et moi, ce que j'aimerais bien voir plus quand je regarde ce film, c'est Elsa toute seule, et ça me fait du bien quand elle est toute seule, en fait, et qu'elle peut avoir son indépendance sans sa sœur. Et en plus, je trouve qu'il y a quand même des petits passages dans le film où, mine de rien, on dit... je crois que c'est Olaf qui dit « Oh, faut pas chercher à comprendre avec les garçons », en parlant de je sais plus quoi, ou alors à la fin quand il y a le... Oui, mais je sais pas si c'est vraiment second degré.
C'est le sexisme, parce que normalement c'est la blague inverse, tu dis « Oh, les femmes, il faut pas chercher à les comprendre ».
Justement, à la fin, on fait la même chose avec les femmes. Ce qui me dérange, c'est qu'on le fait un coup avec les femmes, un coup avec les hommes, et qu'on le fait jamais sur... Enfin, tu vois, on les rassemble jamais, en fait. Et à la fin, quand ils doivent porter des costumes pour la cérémonie, on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'on ferait pas pour, par amour ou par les femmes, je sais plus ». Enfin, il y a un truc, en tout cas, qui renvoie souvent une opposition homme-femme, même si les choses sont inversées. Et en fait, c'est pas que je trouve ça grave, mais c'est que je trouve que c'est un peu gros sabot, un peu schématique, un peu maladroit, au fond, dans son côté progressiste.
Bah ouais, je vais rebondir là-dessus parce que, en fait, je crois que c'est un film qui est faussement progressiste. En fait, c'est un peu un leurre, je trouve. Dans le sens où le personnage qui est intéressant du film, c'est Elsa, tu vois. Et même dans le premier film, c'était Elsa qui était intéressante.
Je suis pas d'accord.
Je suis d'accord.
Sauf que Elsa est limite devenue personnage secondaire de son film. Le film s'appelle La Reine des Neiges. Elle est personnage secondaire du film.
Elle était déjà personnage secondaire,
oui,
du
mais... 1. Non, pas vraiment. C'était quand même, entre guillemets, le méchant principal qui devenait gentil. C'était un personnage principal aussi. Là, c'est pas le cas. Là, Elsa. C'est la figure de femme émancipée qui, à la fin, finit comment ? Exilée, alors que la nana qui a tout ce qu'elle veut, eh ben, elle se marie avec le mec.
Ah non, et elle n'est pas exilée, elle est dans sa famille.
Oui, non, mais elle est quand même loin et tout. Et en mode, j'ai les cheveux...
Elle est à part, en fait. Elle est marginalisée.
Elle est marginalisée, que tu le veuilles ou non, de la manière dont tu vois les choses. La meuf qui a réussi dans le film, c'est Anna parce qu'elle s'est mariée avec le cum.
Ah, je suis pas du tout d'accord.
Et puis, je suis désolé, le fait qu'un cum essaye à tout prix de se marier avec la meuf et qu'il fasse le pan... C'est pas nous, enfin c'est pas un truc novateur, c'est super classique.
Mais
ce gimmick de...
Les gars, c'est un dessin animé. Évidemment, ça va pas être girl power.
C'est un dessin animé,
mais ça excuse pas. Enfin, je trouve que justement, j'ai l'impression que le film. Après, peut-être qu'on part trop loin dans des débats, mais si on me dit que le film est progressiste, je réponds non, il l'est pas. C'est qu'il fait semblant de l'être.
Ça manque de nuances parce qu'en fait, il y a plein de mecs qui certainement ont déjà été autant attachés à leur femme et ont fait autant de déclarations d'amour. Et en fait, ils vont se dire non, mais c'est pas exceptionnel quoi. Et oui, on le montre, mais c'est pas très courant. Enfin, c'est pas un truc de ouf non plus de montrer ça quoi.
En tout cas, ça n'a jamais été fait dans un autre Disney par exemple.
Si Bernard Bianca avait poigné des kangourous, il n'arrête pas d'essayer de lui demander la main.
Oui, mais c'est une souris, ça n'a rien à voir.
Ouais, mais c'est beaucoup plus touchant dans Bernard Bianca au pays des kangourous que dans Frozen, le gars qui essaie de lui courir après pour lui offrir la.
Oui, mais ça devient ridicule au bout d'un moment.
Il y a un truc qui me dérange en fait.
Et c'est un débat enflammé autour de la Reine des Neiges. Alors d'un côté, on a une team à qui ce débat enflammé aura fait fondre son petit cœur, alors que de l'autre, on n'aura que de la glace autour du nôtre. Un cœur refroidi peut-être par le poids des années, allez savoir.
Peut-être.
En tout cas, il y a une question à laquelle on peut répondre, c'est à qui recommanderiez-vous ce film ?
Oh, à qui le rococo ?
À qui le rococo ?
À qui le rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui le rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui ? À qui ? À qui ?
À qui le rococo ? À qui le recommandez-vous ce film ? À notre rubrique qui permet de recommander ce film à un panel trié sur le volet. Clémence, à qui recommandes-tu ce film ?
Alors, je pense que je le recommande à Jamie de C'est pas sorcier. Parce que je crois qu'il n'a pas fait un épisode où il disait que l'eau avait de la mémoire et voilà.
Ah, ça, c'est ça pas cool. C'est un des beaux sujets du film. C'est pas cool de s'en moquer.
Ah, mais c'est cool comme théorie, Jamie, mais il me semble pas que dans C'est pas sorcier, on ait vu ça.
Pourquoi mon verre d'eau me parle plus? Tchou. Fred, parce que l'eau a de la mémoire.
Il t'en veut.
T'avais qu'à pas le traiter comme ça hier. Clément. À qui
Recommande à Luc Besson parce qu'on a enfin trouvé le cinquième élément.
J'ai pensé. Génial.
Ah, c'est bon ça.
J'ai pensé direct.
C'est
bon de
voir
le film
pour comprendre.
Marion, ça va, t'es calme?
Non, jamais.
Qui recommande-tu?
Non, je recommande à tous les fans durs. Voilà.
Ouais, c'est pas beaucoup mouillé. Hein. Mmh.
Mmh.
Donc un milliard de personnes, non, c'est un milliard d'entrées.
Si les personnes étaient de dollars, oui, ce serait ça. Kevin, à qui recommandes-tu ce film?
Bah écoute, moi ayant vu la version française, je recommande aux personnes sourdes pour qu'ils puissent supporter un peu ce film.
Ok, c'est facile pour eux, du coup.
Voyez-le en VO.
Oui, voyez-le en VO.
Alors moi, j'ai cherché, j'ai beaucoup de gens à qui recommander ce film, mais je pense que je recommanderais ce film avant tout à de grandes firmes comme L'Oréal ou bien des magasins comme Sephora, Nocibé ou Marionneau. Parce que regardez-moi ce phare à paupières qui ne bouge pas chez Elsa, qui est magnifique, qui va,
et pourtant, elle va dans l'eau.
Qui brave tous les éléments, l'eau, la terre, le feu, la mer, le phare à paupières est nickel. Ce qui donne son teint éclatant à Elsa, que je trouve ma foi très très sexy, qui
elle t'a plu avec ses cheveux.
Il fallait qu'il le dise.
Et tout, mais par contre, j'étais choqué de voir que son maquillage ne bougeait pas. Alors, est-ce qu'il est permanent ou pas?
Tu sais, même dans les films pas d'animation, c'est le cas. Moi, ça m'impressionne toujours.
Chez Mila Jovovich, notamment. Enfin, voilà, je recommande ça à toutes les firmes de beauté. Regardez ce film et inspirez-vous-en.
J'aimerais et pouvoir, des bons tips. Andrea et Phoenix, on t'embrasse.
Voilà, exactement. Bon, sur ces belles paroles, tuto beauté, je pense qu'il est temps de se dire au revoir, les
au
amis.
Au revoir.
On n'est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà. Ce match retour.
Il fait froid.
Intense.
Est-ce qu'on continuera de se parler après, vous croyez?
Non. Bien sûr.
Jamais.
Parce qu'on s'aime au-delà des différences.
Match retour endiablé autour de la Reine des Neiges 2, hein, qui bat déjà des records, hein, déjà plus de 200 millions de dollars accumulés, et ce n'est que pour son premier week-end d'exploitation, hein, ça promet du lourd, du très très lourd niveau tring, jackpot Disney et compagnie. La BA de la semaine, hein, c'était The Irishman, qu'on s'empressera de voir dans nos canapés au KLM, sur Netflix dès le 27 novembre et dont on vous reparlera la semaine prochaine dans un match retour que j'espère aussi enflammé que celui-là.
Non, on sera tous d'accord.
Mais pas du tout, De Niro chante bien. Et n'oubliez pas que les Rolling Stones ont dit que c'était un chef-d'œuvre.
Oui, donc c'est bien.
Deux fois. De deux personnes différentes. Kif et Mick.
Pour vous teaser ce qu'on fera la semaine prochaine, et ben tout simplement. La famille Adams, le dernier du nom. Alors, qui reviendra? On arrête, ça ne marche pas. Alors,
pardon, excusez-moi, j'ai dénoncé.
On a des intentions artistiques, mais malheureusement, elles ne sont pas, elles ne sont pas réalisables.
C'est un concert sans répète, hein, c'est ça le problème.
Et oui, la famille Adams qui revient au cinéma d'animation, on va les enchaîner, les films d'animation, là, c'est bien. Parce que ça faisait longtemps qu'on
c'est
en avait
Noël.
Pas fait. Et puis c'est un peu Noël, hein. On se demande pourquoi il y a tant de films d'animation à Noël. Vous aurez la réponse très vite.
On vous le dira, c'est pour l'argent, principalement.
Tout et plus encore.
Donc la famille Adams qui revient, non pas dans une suite des films qu'on a pu voir de Barry Sonnenfeld, mais dans un nouveau film d'animation qui a l'air de respecter plus ou moins le code humoristique et cynique de cette famille-là qu'on connaît bien. Alors j'ai hâte de faire la BA avec vous. Et puis voilà, on en reparlera sur les réseaux, hein, qu'on va rappeler aussi.
Bien sûr.
Les réseaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter pour ce qui est des réseaux sociaux, et puis les plateformes d'écoute de podcast que vous connaissez aussi très bien, comme Spotify, comme Deezer, comme iTunes.
Au chat!
Ocha,
SoundCloud.
Faites-vous plaisir, choisissez celle que vous aimez, hein, mais c'est la même chose en fait.
L'épisode est le même, quoi qu'il arrive.
L'épisode sera le même.
Écoutez-nous.
Nos
voilà.
voix seront les mêmes. Et par contre, sur iTunes, on vous encourage à venir nous mettre une petite note,
oui.
un petit avis. Nous, on aimerait bien avoir des retours sur ce que vous pensez de notre émission.
Qu'est-ce que vous pensez
hein, est-ce qu'il y a des choses à parfaire? Est-ce qu'il y a des choses à enlever? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter?
Des choses à pas refaire
oui. Des choses à ne pas refaire.
Des jeux de mots à enlever hein.
Et puis on se fera un plaisir de lire vos avis et puis d'en prendre compte. Qu'est-ce qui se passe? Ton virement n'est pas passé.
Je viens de voir un article de Première qui dit « La Reine des Neiges 2 réalise le meilleur démarrage mondial de tous les temps pour un dessin animé ».
Et
à côté, Brisby, le secret de Nîmes, était sorti dans l'oubli.
Tellement bien,
dans
Brisby!
Dans l'ignorance totale.
Oh, c'est tellement bien, Brisby!
C'est le meilleur dessin animé du monde.
Aucun
c'est
rapport.
T'as jamais vu Brisby?
Si, si, mais je vois pas le rapport entre
bah,
la Reine des Neiges et
Brisby. Dans le sens où c'était bien meilleur et que c'est sorti dans l'ignorance totale.
Bien meilleur, différent.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. On a train de digresser.
Ciao, bello.
Ragazzi. Ciao.
La saturazione.
Tortellini.
Arrivederci.
Shoshana!
Et ben, ce débat.
Et encore, je pouvais répondre.
On l'a moins débattu sur Polanski.
J'avoue.
Mais on était plus unanimes, je crois, non?
Oui. Ouais, bref.